Hello les amis, ça me fait penser que j'ai pas vérifié le son. Je pense qu'il est ok. Parfois il passe un petit peu en low. Non, on est impeccable. Ah, je sors de l'avion. On était à Berlin avec Joe il y a encore quelques heures, mais le timing était parfait. Voilà, j'avais idéalement je lançais à 9h30, ouais, mais c'était compté, sans compter la circulation entre Roissy et le studio. On est arrivé un peu après, ouais, 8h30 je crois. Vous allez bien? Ça va? Bon, dimanche de fou. On va y revenir longuement ce soir sur cette journée à Berlin et sur ma participation au chômage du VCT. C'était comme un rêve. C'était tout chill. L'ambiance était vraiment, 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 vraiment bien. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Mais ce soir, du coup, stream Valo. Oh, pourquoi vous ne l'avez pas laissé celui-ci? Ah, oh, Sugar, tu pouvais me le laisser. Stream Valo avec le maillot, bien sûr, l'équipe de France. Voilà. Donc, je donne déjà rendez-vous ce soir. Mon fils a fait sa rentrée en grande section, c'est bien passé. Oui, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est la rentrée. On a un peu de sujet. Oui, t'as raté un cas là, framboise, mais on peut. Faut laisser quelques secondes qu'on rigole un petit peu. Attendez, je vous enlève le message épinglé. Voilà. Alors, les amis, tiens, on va lancer sur TikTok en même temps. Vous savez que sur Twitch, il y a plein de choses différentes, mais sur TikTok, je leur mets les revues de presse aussi parce que je trouve c'est sympa d'exposer ce contenu aussi vers un autre public. Et ça se passe plutôt bien. Aussi sur TikTok, donc je lance, vous avez le droit à la musique, tout ça. Et là, et je mets. Voilà. Et je lance chez les amis TikTok aussi. Voilà. Pour une revue de presse qui désormais, en cette saison, je sais pas, moi ça fait 4 ans et demi, 5 ans, donc on va dire saison 6 sur Twitch, pour une saison qui sera où la revue de presse sera extrêmement présente. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. L'idée, c'est que cette matinée Étienne, que je présente depuis presque 5 ans sur Twitch, ce moment où on se penche sur l'actualité ensemble, où on lit les journaux ensemble, eh bien ce soit vraiment un rendez-vous du lundi au vendredi. Rendez-vous qui, ces dernières années, était beaucoup empêché par mes activités en télé. Et comme je suis un peu moins engagé en télé, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, je peux faire plus sur Twitch et notamment rendre plus régulier. Certains rendez-vous, comme la matinée Étienne, qui est quand même qui est à la base de cette chaîne. Donc l'idée, c'est ça. Et vraiment, il faudra que ce soit exceptionnel pour qu'il n'y ait pas de matinée Étienne. Je vais vraiment en faire un rendez-vous exceptionnel. Ça veut dire, par exemple, The Event. Hein, vous savez qu'on a la chance d'être The Event à partir de vendredi. Enfin, on y va jeudi pour le setup et pour le concert du jeudi soir. Mais vendredi, samedi et dimanche, il n'y aura pas de matinée Étienne en tant que telle. Quoique. Je pense que je ferai quand même des revues de presse le matin, mais plutôt peut-être axé The Event. Voilà. Donc, la matinée Étienne, un rendez-vous du lundi au vendredi, toute l'année. Et vraiment, les absences seront très rares. Et par exemple, quand vraiment il y aura un truc le matin qui m'empêche de la faire, ben, j'essaierai de vous la proposer le soir. On a fait des tests de soirée Étienne aussi, où on s'intéresse sur les journaux du matin avec un petit décalage, mais en vrai, c'est cool, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là au début de ce live, il y a quelques minutes. Je ferai aussi un live, mais que sur Twitch ce soir, pas sur TikTok et Twitch, que sur Twitch, un live Valorant, ce jeu qui à la fois me réjouit et me fait rager, puisqu'on a passé une journée incroyable à Berlin au VCT hier. J'avais très très peur que ce soit une catastrophe, qu'on se moque beaucoup de moi, que je fasse pas un kill face à une équipe qui était composée majoritairement de Radiants, de joueurs pro, d'anciens joueurs pro, et on a fait 5 kills, on n'a pas été fort, mais on n'a pas été ridicule, et l'expérience était formidable. Donc on y reviendra ce soir avec le maillot de l'équipe de France. Voilà. Fier de ta performance hier. Alors fier, c'est un grand mot, mais c'était beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé, quoi. Voilà. Bon, évidemment, la grande blague, ça a été la touche de Diffuse qui n'était pas bindée, puisqu'en fait, donc quand tu arrives sur un PC qui est pas le tien, il faut que tu fasses tous tes réglages. Bon, t'as censé tout ça, c'est pas très compliqué, et que tu rebindes toutes tes touches, c'est des claviers QWERTY. Nous en France, vous savez qu'on bosse avec des claviers AZERTY, donc il faut rebinder toutes les touches d'armes, les touches de déplacement. Voilà. Et sur le PC d'entraînement, j'avais bindé ma touche de Defuse, bien sûr, parce que c'est un truc de base. Et sur le PC, et on l'a oublié de le faire, sur le PC de compète. Et donc j'ai fait un clutch, ce qui est surréaliste quand tu vois le niveau qu'il y avait en face. Je fais un clutch, on se fait un 2v1 avec Rage contre le dernier joueur de l'équipe adverse. Rage se sacrifie, il bait, je fais le kill. Je vais defuse, j'ai pas bindé la touche. Voilà. Donc on a perdu un point à cause de ça et je m'en veux, mais j'aurais voulu le faire exprès pour le content, c'est ce qu'on aurait fait, quoi. Bon, assez parlé de Valo. Je vous retrouve ce soir pour du Valo, on va bien rigoler. Ça m'a remotivé un petit peu parce que je me suis dit que comme quoi quand on est concentré, quand on communique bien dans une équipe, il y a moyen de faire des trucs, quoi. Merci Mardou Twitch pour le Prime, merci Edrad pour le 11e mois, vous êtes adorables, merci Flamme d'Argent. Pour le Prime, j'avais pas vu. Merci pour le deuxième mois. Merci You Auto Saka, beau pseudo pour le Prime. Merci Turin Tarambar pour le. C'est quoi cette pluie de sub pour le 33e mois? Merci pour le 14e mois à Alexandra. Comment vas-tu, Alexandra? Merci Satoshi 42 pour ce 17e mois. Merci Poum pour le 47e mois. Merci Mélissa Japon pour le 3e mois. Merci à tous. Merci. Et puis merci. Alors, vous avez vu, il y a un petit logo en rotation qui est apparu là. Hello Bank, hein, qui est une banque en ligne. Déjà accompagné sur la fin de la saison dernière sur Samplay. Je vois que notre ami chocolatier Paul Gardère est avec nous aussi, je le salue. Et donc, ils m'ont aidé à boucler la saison 2 de Samplay. Ils vont être aussi sur le début de la saison 3 de Simplex que je suis en train de préparer, qui revient le dimanche 14 septembre. Mon émission tous les dimanches soirs sur le jeu vidéo où je reçois une invitée qui me parle de son jeu vidéo préféré. Donc on a Eloban qui va nous accompagner sur ça. Et en plus, il m'accompagne sur tout mon mois de stream de septembre. Donc, voilà, ils seront présents. Donc merci à eux de leur soutien parce que c'est grâce à eux que je peux lancer tous ces projets en ce moment. Évidemment, sur certains streams particuliers comme le The Event, et évidemment, il n'y aura pas de sponsoring. Tu ne sponsorises pas un événement caritatif. Donc, et là-dessus, ils sont OK. Mais surtout, les revues de presse, les petits gaming du soir, il y aura le soutien des Lobanques. Et merci à eux en vrai parce que c'est cool, quoi. Voilà. Ça marche mieux que le CIC. Ah oui, j'ai vu que ce week-end, il y avait des problèmes au niveau des paiements sur certaines banques, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, merci à eux en vrai. Voilà. Et merci à vous d'être là. Hello, c'est la BNP, c'est bien. Ouais, ouais, merci, Dame Joël. Ok, c'est adorable. Voilà, donc c'est bien chargé ton programme cette saison. Oui, c'est donc ma sixième année sur Twitch. Et en vrai, ça va être l'année la plus chargée en termes de stream, en termes de projet. MVP se poursuit. Retour le 10 septembre de MVP, mon émission du. Deux fois par mois sur le monde du travail, de l'insertion, de l'orientation, pour ceux qui cherchent un petit peu leur voie, pour les plus jeunes ou les plus âgés qui sont déjà dans la vie active et qui veulent changer de voie. Ça me plaît, revient, je vous l'ai dit, le dimanche. Il y aura de la revue de presse, on veut, tu en voilà. C'est-à-dire que vraiment, ça devient un rendez-vous. Les stream gaming du soir. Je pense que on streamait en moyenne 150-160 heures par mois avant, et là, je vais essayer de m'approcher des 180-200 heures, quoi. Plus la présidentielle de 2027 à préparer, bien sûr. Je veux pas être trop bavard ce matin, vous savez que j'aime bien les longues intros, mais je dois vous abandonner à 12h25, ce qui est assez tôt, parce que je déjeune avec mon grand, Malo. Je vois beaucoup de petits messages sur la rentrée scolaire, et Malo fait sa rentrée cet après-midi en CM1, il vient de fêter ses 9 ans là, donc on a avec sa maman, on va au restaurant avec lui avant, une petite brasserie à côté de l'école, pour en faire un petit moment un peu sympa, tu vois, que tous les trois. On fera pareil pour Solal qui lui a 5 ans et demi, il va rentrer en grande section de maternelle. Il est content, ouais, ils sont pas trop stressés de l'école, en vrai c'est cool. Voilà, évidemment ils sont malou, ils sont en mode ouais, l'école, mais ça va en vrai. Ouais, CM1 déjà. Ça pousse. Donc voilà, je vous abonnerai à 12h25, c'est pour ça que je vais pas être trop long sur l'intro, même si vous savez c'est mon petit plaisir ici, de faire des intros d'au moins une demi-heure pour prendre de vos nouvelles et tout ça quoi. Ce qui nous empêche pas de vous prendre de vos nouvelles, on est à 12 minutes là en vrai. Racontez-moi où vous en êtes, les amis. Ça me pousse bien, joli. Merci à Technopop pour le 12e mois. Merci Zian54 pour le 11e mois. Merci à Aurima pour le 5e mois. Merci Pompidou2027 pour le 25e mois. Remote Work, merci à toi pour ton 21e mois. Merci Zefoun pour le 5e mois. Merci Mardo Twitch pour le 5e mois. Merci Edrad, merci pour cette pluie de subs. Vous êtes fous. Pour ce 11e mois. Et ce Sam, meilleur joueur de l'équipe de France qui est faux. Merci Flemme d'Argent, joli pseudo pour le 2e mois. Merci à tous. Vous êtes incroyables. Je vais bien, mais mon contrat de Presta s'arrête le 30 septembre, donc chômage bientôt. Force au Rigetsu. Force en vrai. Merci Nico. Merci Nicodem. Merci Morn. Faudrait demander à l'IFOP tes chances au présidentiel. Imaginez un monde où grâce à un donation goal atteint aux Event, je me présente, je le fais sérieusement, je co-construis mon programme avec vous, et des instituts de sondage commencent à mesurer mon score de premier tour. Imaginez dans quel monde on serait. Hein. Dans quel monde on rentrerait. Quoi. Merci Manuel. Merci Manuel. Merci Turatur en bas. C'est incroyable. Merci Manuel. Merci Blue Boys. Merci Panda Life. Merci Paradin. Vous avez lancé un train de live. Merci Murpaflex. Merci Technopop. Merci Ziyard. Merci Aorima. J'ai l'impression que je devrais aller plus souvent à Berlin. 100% je vote pour toi. La 6ème République Étienne. Incroyable. C'est quand le The Event, c'est vendredi, samedi, dimanche. Avec un concert le jeudi soir, mais qui est... je viens de demander une place pour un ami, là, qui est full. Full. Tellement heureux d'avoir eu mon bac et de travailler. Putain, pas de rentrée. Bravo, Sojeki. Bravo. Merci, la biche du gaming. Merci, Pikachu. Merci, Honor Gloria. Merci, Fabien. Merci, Clean Fist Food, mon ami. Merci, Neveil. Merci, Weirdo. Il y a trop de subs, je vais pas pouvoir lire les journaux. À quelle heure le concert, je dis, je sais plus. J'irai 20h à la louche. Mais vous savez quoi, on va beaucoup parler de cette candidature à la présidentielle. On va, moi, je rêve qu'on atteigne les 1 million de Nation Gold sur ma cagnotte. Ça paraît fou, mais on a fait la moitié l'an dernier. On a fait 460 000 euros. J'ai vraiment Non, non, JLT94, je te lis aussi. Mais vous êtes très nombreux ce matin. Alors, on était déjà très nombreux et on a un raid de fou de Nikos. Incroyable raid. Merci. Qui arrive en force là. Ça fait plaisir. Je vous montre la chaîne de Nikos qui vient de nous raid. Merci beaucoup. Merci pour ce raid. Mais comment ça fait que je te fous le même pas? Bah, c'est corrigé, excuse-moi. Merci pour ce raid de fou. Merci beaucoup. Bon, non, pas Nikos Aliaga, c'est un autre. Bon, j'espère que je pourrai te rendre l'appareil très très vite. En tout cas, maintenant je te follow, ce que je ne faisais pas, ce qui est honteux. Attends, je vous montre la chaîne aussi, ici. Voilà. Toc. Ah oui, il faut que j'active la caméra virtuelle. Voilà. Ça, c'est. Je montre à mes amis de TikTok, j'avais pas mis la caméra aussi. La mini Nikos qui vient de nous raid sur Twitch. Merci à toi. Hop. Voilà. Voilà. À charge de revanche, ami. Un raid de qualité, ouais. Je sais plus de quoi on parlait du coup, mais ce raid, il est fou. Donc, pardon, les amis Nikos qui nous rejoignent, on est dans la matinée Étienne, c'est mon rendez-vous du matin, depuis 5 ans maintenant. La matinée Étienne, c'est un moment où on se penche sur l'actualité ensemble, de façon un peu chill. Et on lit les journaux ensemble, voilà, que j'ai lu bah, du coup la nuit dernière à Berlin, là. Je vous ai mis des articles de côté sur les actualités qui me semblaient importantes. On ne peut pas parler de tout, même si on essaye de parler de choses de façon la plus complète possible. On lit ces articles, on se met au courant, et puis après on échange, on en discute. Alors, parfois on n'est pas d'accord, mais on arrive de le faire de façon. On essaie de le faire de façon assez apaisée. Et on fait ça tous les matins, c'est l'objectif sur cette chaîne, du lundi au vendredi. Merci en tout cas. Merci, merci Maël, merci, merci Maël pour ton soutien, merci pour le 7e mois, merci Wixi Mimi, merci Weirdo, merci Nevae, merci Robin, merci Dr Boule, merci. Les voisins, ça va? Oui, alors oui, j'ai très envie de rencontrer très vite mes voisins, puisque j'ai entendu. Donc là, je suis dans un petit studio où je stream, hein, c'est mon studio de stream, et là où je suis, il y a des petits pleurs tout mignons de bébés, parce qu'il y a des pleurs qui sont plus ou moins forts, mais tout mignons depuis quelques temps là. Donc il y a un bébé qui est apparu dans le petit appartement d'à côté. Et j'ai hâte de rencontrer ses parents pour leur dire, écoutez, moi je suis pas souvent à côté, hein, je vis pas là, mais je stream quand même pas mal. S'il y a du bruit à un moment, si on entendait un mec hurler le soir à 1h du matin sur les gars qui smurfent ou des trucs comme ça, il faut me dire, hein, il faut me taper à la porte et tout. Donc, parce que moi je veux pas réveiller le bébé qui va réveiller la famille. Donc là, je vais finir par taper, parce que ça fait plusieurs semaines que j'attends et je croise personne. Et donc, il faut que je tape, je dirais, soit fin d'après-midi, 18-19 h, pour me présenter et dire, écoutez, voilà, je vous laisse mon téléphone. S'il y a une nuit, vous entendez un gars qui hurle. Non, mais tu vois, non, mais je suis passé par là. Et parfois, les petits, ça dort pas très très bien. Ça se réveille une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 7 fois par nuit. Donc, t'as pas besoin du voisin qui. Alors déjà, quand je sors le soir, hein. Déjà, je ferme même pas ma porte à clé pour pas avoir le bruit de la clé fort dans le verrou quand j'ouvre. Voilà. Hein, donc j'ouvre tout doucement. Il y a du tapis dans l'escalier, donc ça, je descends tout doucement. Mais voilà, c'est les cris qui me font peur. Bon, en tout cas, merci à tous vos messages. Vous voyez que je ne peux pas répondre à tous là. Mais parce que vous êtes super nombreux, mais ça fait super plaisir. Toboggan pour descendre. Trop bien ça. Trop mignon. Bon, et je vous propose de commencer assez vite. Matin, vous en pensez quoi? Est-ce que vous me donnez le go pour un petit sommaire? Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, au début, je commence toujours par un sommaire. Donc, je donne toujours l'essentiel de l'actu, on va dire en 5 minutes. Bon, on voit, ça dure un peu plus longtemps. C'est pas un moment d'échange, et je vous dis, voilà ce qu'il y a, les gars, d'essentiel dans l'actu aujourd'hui. Et après, on prend le temps de lire ces articles, ces journaux, et d'en parler ensemble. OK? Merci. Oh, train de live de fou. On y va? T'es parti? J'ai votre feu vert? Allez, go. Alors, je vous parlais de. Je vous montre tout ça. Hop, la tablette qui marche. Pixel, c'est incroyable. Voilà. On va commencer par le. Par Bayrou. Et je crois que c'est un dossier dans les Échos. Voilà. Parce que Bayrou, manifestement, ses jours sont comptés. À François Bayrou, je parle du Premier ministre, bien sûr. Voilà, j'ai un titre ici. Dernière ligne droite pour François Bayrou. Bon. A priori, les journaux que je lis, en tout cas, sont pas très optimistes sur l'espérance de vie politique de Bayrou à Matignon. Hein, dans une semaine, on a un vote de confiance qu'il a souhaité lui-même, hein, qui s'annonce très complexe pour lui. Le Premier ministre continue de chercher à convaincre les Français et puis accessoirement les députés, hein, puisqu'ils ont les députés ont son destin entre leurs mains, de l'urgence de s'attaquer à la dérive des finances publiques. Et voilà, c'est ce que je disais, et de convaincre aussi les députés des différents partis de faire preuve de responsabilité. Donc on lira ce dossier, je le lis pas entièrement ici, le baroud d'honneur de François Bayrou. Vous voyez que par exemple un journal comme Les Échos, c'est à peu près l'avis général de tous les médias là-dessus, sont pas très optimistes sur la longévité de Bayrou à Matignon, et de rassembler une majorité sur son programme, qu'on peut qualifier un programme d'austérité, quoi. Donc ça, c'est le premier sujet dont je vous parlerai. Et du coup, qu'en pense Le Monde ? Assez intéressant. Ouais, le Monde, je trouve... Faites pas attention, ça, c'est... toutes mes photos magnifiques de mes compétitions de gaming. Tiens, enfin, je vous reparle de Valorant au féminin, parce que bientôt, je vais vous proposer un truc sympa que j'ai déjà fait. Donc Le Monde, il est là. Regardez. Voilà. Et du coup, analyse du Monde. Crise politique. Parce qu'on est en passe de plus avoir de Premier ministre, de plus avoir de gouvernement. La pression se porte sur Macron, nous dit Le Monde. Après la chute annoncée de François Bayrou lors du vote de confiance du 8 septembre, le chef de l'État se retrouve en première ligne. Macron repousse par avance le scénario d'une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles législatives, réclamées notamment par le RN et LFI. Voilà. Cet haut responsable politique de savoir travailler ensemble justifie le président, c'est assez intéressant. Voilà. Et les oppositions qui mettent déjà en garde contre la nomination d'un nouveau Premier ministre de centre droit, assurant qu'il sera immédiatement censuré. En termes simples, on va faire simple, c'est le bordel. Voilà. Emmanuel Macron face au risque d'un mandat déstabilisé. C'est intéressant que Le Monde aille un petit peu au-delà de juste du départ de Bayrou et nous dise ce qui va se passer. Je vais vite parce qu'on est dans le sommaire, on a beaucoup de choses ce matin. Sur l'actu internationale, toujours dans Le Monde, je voudrais vous parler de Trump, parce que je vais énormément parler des droits de douane, vous savez, décidés par Trump sur le monde entier. Et là, il y a une menace sur ces décisions de Trump, mais qui viennent de l'intérieur des États-Unis. Alors, victoire, pas tout à fait, Rigetsu, il faut attendre encore un petit peu. Merci JL Fares, merci Kevino pour les soutiens, pour les subs. Merci Wikita, merci Réalité Ivoirienne. Puisque aux États-Unis, une cour d'appel fédérale, donc la justice américaine, a confirmé vendredi qu'une grande partie des taxes douanières décidé par Trump contre plein de pays dans le monde était illégal. Ouf, ouf. Donc là, c'est pas terminé, parce que je crois que maintenant c'est à la Cour suprême de se prononcer. Cour suprême qui est normalement dominée par les conservateurs, quoi. Donc on verra ça. Je trouve intéressant que Le Monde nous en parle. Ensuite, on restera à l'international avec la une de l'Humanité. Ouais. L'UMA, qui est un journal qui depuis des années en fait, parle. Avec un peu de chance, je vous l'ai pris en capture d'écran. Ouais. Ça, c'est la une de l'UMA. Donc, l'Humanité, c'est un journal qui, historiquement, et beaucoup aussi dans les temps, parle des Palestiniens. Voilà, c'est un journal qui est pro-palestinien, hein, depuis toujours. C'est dans la ligne éditoriale du journal, qui est absolument pas cachée. Et bon, tous les journaux en parlent de la Palestine depuis quelques temps, et encore heureux. Vous savez qu'ici, on en parle quasiment tous les jours, hein, pour ceux qui l'ignorent. Ça, c'est la une de l'UMA ce matin, en lettres noires sur fond, blanches sur fond noir. Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l'armée israélienne, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. C'est la une de l'UMA. Et en fait, c'est un appel, pas de l'UMA, mais de Reporters sans frontières, auquel se lie l'UMA. Et c'est expliqué en bas à droite, là, vous voyez. 150 médias d'une cinquantaine de pays réunis à l'initiative de Reporters sans frontières se mobilisent aujourd'hui en solidarité avec les journalistes palestiniens de la bande de Gaza. Voilà. Donc je vous lirai justement ce petit éclairage sur « Il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer ». Et l'UMA a publié également, c'est une page qui est très forte, la photo de 198 journalistes hommes-femmes, voilà, parmi les plus de 200 tués dans la bande de Gaza, journalistes, depuis le 7 octobre 2023. Voilà. Et vous avez ces visages dans l'Humanité ce matin, je vous les montrerai tout à l'heure, on va vite, on est dans le sommaire. C'est pour l'actu internationale. En France, il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est la rentrée scolaire, vous étiez très nombreux à me parler de la rentrée scolaire ce matin, du fait que vos enfants rentraient. C'est la une du Parisien ce matin, avec un coup de projecteur sur le privé, le secteur privé. Rentrée scolaire, la tentation du privé face aux maux de l'école publique, les maux, les problèmes, les... On verra lesquels d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus de parents sont tentés d'inscrire leurs enfants dans le privé dès l'entrée en sixième. Donc il y a un dossier là-dessus. Ils ont choisi le privé. Pourquoi? Comment? Si le dossier ne nous suffit pas et qu'on ne le trouve pas assez clair, j'ai un petit bonus dans les échos, page 14, qui, je pense, va encore un peu plus loin sur le sujet. Au collège, l'exode des familles les plus aisées vers le privé s'accentue. Depuis 20 ans, les CSP+ font de plus en plus le choix du privé sous contrat, accentuant un fossé social dans l'éducation. Des initiatives locales tentent de rétablir la mixité, mais les défis restent immenses. Merci, c'est Yaruki pour le 27e mois. Merci, Fariz, pour le 10e mois. Merci. Merci, Wikita. Merci, Patricia. Donc, on lira ça si on estime que le dossier du Parisien n'est pas assez complet. Et puisqu'on parle d'école, alors moi, c'est un sujet dont je vous parle régulièrement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans un pays comme le nôtre. Je veux parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap en France. Et ce matin, on a un sujet dans le monde là-dessus qui est là. Qui est là, voilà. Sur le fait que. Alors l'école est plus inclusive en France qu'elle n'a été. Hein. Il y a eu des efforts, il y a eu des progrès pour que les enfants en situation de handicap soient davantage scolarisés qu'avant. Donc les progrès existent, mais le constat que fait le monde, par exemple, c'est que c'est très insuffisant. Alors, hein, c'est comme sur un bulletin scolaire, on peut mieux faire. Voilà, on en est là. Alors, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais c'est encore très loin de ce qu'on pourrait faire. Il y a encore des enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui sont scolarisés, mais un nombre d'heures ridicule par semaine ou par mois, quoi. Donc, je trouve que le papier du Monde nous fait une belle photographie à l'instant T de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Voilà, Lou me dit, je me retrouve au CNED par manque d'aménagement. Voilà, on est loin du compte pour l'inclusion, me dit Manu. Oui, bah tu as raison. Ouais. Merci. Vous êtes très nombreux à me parler de questions pour un champion. Je n'oublie pas bien sûr ce sujet. Je vous en parlerai, je continuerai à vous en parler bien sûr, puisque je me battrai aussi longtemps que je peux sur ce sujet, mais je peux pas en parler tout le temps. Pendant ce temps-là, la Terre continue de tourner. Donc on parlera de l'école pour les enfants en situation de handicap. On parlera également ce matin de où est-ce que je vous qu'est-ce que je vous ai rajouté? Oui, un peu de santé aussi. C'est dans la croix. Ouais. Le don du sang qui est assoupli. Notamment pour ben, je sais pas, les personnes tatouées, ou les personnes qui viennent se faire tatouer, qui viennent de se faire percer. Parce qu'on est en une situation de manque de don de sang en France, hein. Vous savez que le don de sang, c'est pour après des accidents, mais pas seulement. Il y a des gens qui ont besoin de sang régulièrement dans le cadre de certaines maladies, vous savez. Lundi 1er septembre, les critères pour donner son sang s'assouplissent. Mais, donc c'est bah c'est aujourd'hui. Mais il faudra notamment attendre deux fois. Voilà, il faudra notamment attendre deux fois moins longtemps après un tatouage, après un piercing ou après une séance d'acupuncture, par exemple. Voilà. Ce changement intervient alors que les dons sont en baisse depuis plusieurs années. Et puis ce sera l'occasion pour nous de rappeler l'importance du don de sang, quoi. Voilà. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Pour ceux qui sont en situation de donner. Donc ça, c'est le don de sang. Je regarde mes notes. Et santé toujours, santé publique. Je vous parlerai aussi de la qualité de l'air. Ça, c'est un sujet qui est très important pour moi. Vous savez que bon, l'air, notamment dans les grandes villes à Paris, en France, il est parfois très problématique. Il est même facteur de maux, voire de décès. Et on a. Vous me reprochez souvent de ne vous rapporter que les mauvaises nouvelles. Hein. Le journaliste, souvent, c'est ce qu'il fait. Eh bien là, on a, même si ce n'est sûrement pas encore parfait, on a un peu de mieux à Paris. La qualité de l'air à Paris en nette amélioration depuis 10 ans. C'est Air Paris, l'organisme qui souligne l'impact conséquent et quantifiable des politiques publiques sur la lutte contre la pollution dans une ville comme Paris et appelle à poursuivre les efforts. Donc tout n'est pas parfait, mais de temps en temps. Il y a des progrès sur des sujets, il faut le souligner, sinon on va désespérer de tout quoi. On se penchera là-dessus. Je vais essayer d'aller vite ce matin parce que vous voyez, il y a beaucoup d'actu. Et alors, c'est très drôle parce que moi, je regarde très peu la télé, j'en fais de moins en moins. Et si je suis venu sur une nouvelle plateforme, c'est plutôt pour faire des nouvelles choses. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des choses incroyables en télévision parfois, notamment dans les documentaires. Et justement, il y a deux articles sur deux docs qui arrive là sur des questions de santé à la télé. Dans La Croix, j'ai un papier sur l'endométriose, par exemple. qui est ici. Endométriose, l'espoir est permis. Donc, si le sujet vous intéresse, et je sais qu'il touche énormément de femmes, il y a un documentaire sur Arte, hein, qui est disponible sur la plateforme arte.tv, donc qui est disponible quand vous voulez, sur le point sur la recherche sur le sujet. C'est un sujet dont longtemps qui a été sous-exposé, hein, et on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux. Et là, il y a un doc qui ne dit pas tout, mais qui dit déjà beaucoup de choses. Endométriose, vers de nouvelles thérapies, c'est sur arte.tv, on lira cet article. Et puis un autre doc sur une question de santé que j'ai vu, sur la santé mentale, qui a l'air formidable aussi, que je vous ai mis, qui est page 11 dans l'UMA. Bon, je retourne sur l'UMA. Donc je suis bête, je l'ai sûrement déjà mis en page. Voilà. Qui est là. Alors, c'est une série, une fiction canadienne, qui s'appelle Empathie, dans laquelle joue notamment Thomas Ngijol, et qui manifestement est terrible dans son rôle, qui est vraiment très bien. Attendez, je vous la remets. Entre humour et gravité, une folle série sur la santé mentale. La série a l'air incroyable. En 10 épisodes, la fiction canadienne Empathie évoque les troubles psychiques. Je crois que c'est une immersion dans un hôpital psychiatrique. Et parle surtout de reconstruction avec une humanité et une poésie confondantes. Une immense réussite. C'est rare de voir des articles qui disent autant de bien d'un programme télé. Voilà. Donc, je me dis, même si nous, on est plutôt sur les plateformes, ça, c'est sur Canal+, a priori. Empathie, 21h10 ce soir, et Caroline Constant dans l'Humain nous dit que c'est une masterclass. Salut Whisclay. Il y avait des gens qui étaient dans les gradins hier à Berlin. J'essaie de saluer tout le monde, mais je ne sais pas si j'ai je ne sais pas si j'ai vu tous les petits coucous, mais en tout cas ça me fait bien plaisir. Voilà les amis pour le sommaire. Donc là on a fait l'essentiel de l'actu. Maintenant, on va passer la deuxième et on va lire ces articles et on va essayer d'échanger là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses ce matin. Valo ce soir, les amis. Soirée Valo ce soir. Merci pour tous les messages à propos d'hier. Bon, on y viendra longuement ce soir parce que ce soir, on se fait une soirée spéciale Valo avec le maillot de l'équipe de France. Merci Lightim pour le Prime. Merci Dakiné pour le Prime. Merci Sodamacraft. Merci pour le 19e mois. J'espère que tu vas bien. Merci Codis pour le 42e mois, merci Telk71 pour le 48e mois, merci à tous. Je sais pas si j'ai remercié Seyar ou qui est Fares, mais je le refais. Merci Nathan, Getz et Clint Fistfood de nouveau. Ok, Whisklay, c'est noté, je vois ça avec rage, pas de problème. Merci, dit du spam. Ok, on y va, les amis? Sachant que ce matin, je suis obligé de vous quitter à 12h30. Puisque je vais déjeuner avec mon néné qui fait sa rentrée en CM1. Juste avant la rentrée à l'école, c'est important. C'est un moment important pour les petits. Salut Alexandra. On envoie la force à Max. Les mecs, je me chie dessus, je passe un oral en 30 minutes. Force, force, force. Force. Allez, on y va, on attaque. Il y a beaucoup de choses ce matin. Donc on va commencer par les jours de Bayrou comptés. Ça, c'est donc la une des échos. C'est parti. En gros, il lui reste une semaine, quoi. J'ai bien compris. Hop. Poum, c'est ici. Dernière ligne droite pour François Bayrou. De quoi s'agit-il? Donc, la une des échos, la voici. À une semaine d'un vote de confiance qui annonce très complexe pour lui. Voilà. Hadjar, troisième en F1, c'est incroyable aussi. Mais Lolo Coconut, c'est fou ce qu'il a fait le français. Mais il y a tellement de choses ce matin. Oui, c'est vrai qu'on a un jeune français qui a fait une masterclass en Formule 1, là. Mais il y a tellement de choses ce matin, je ne vous l'ai pas mis de côté. Il y a trop de choses. En 2 heures, on ne pourra pas faire tout ça. Hein. Donc j'ai privilégié la politique, l'international, Gaza, la santé. Mais en vrai, tu as raison, c'est fou ce qu'il a fait. Dernière ligne droite pour François Bayrou. À une semaine d'un vote de confiance qui annonce très complexe pour lui, façon un petit peu tranquille de dire qu'il a quasiment aucune chance. Le Premier ministre continue de chercher à convaincre les Français de l'urgence de s'attaquer à la dérive des finances publiques, hein, c'est son credo depuis très longtemps d'ailleurs Bayrou, et les députés des différents partis de faire preuve de responsabilité. Parce que s'il n'est pas soutenu par l'Assemblée, ce qui va sans doute arriver, il dégage, il saute. Bye bye, me dit Breton. Il s'apprête à recevoir ceux qui voudront bien venir jusqu'à Matignon pour discuter avec lui de ses propositions budgétaires, mais dimanche soir, s'exprimant sur les chaînes d'information, puisqu'il est intervenu dimanche soir, il n'a guère tendu la main à ses opposants. Voilà. Envisageant déjà un après Bayrou, le Parti socialiste, mais aussi Darmanin, aujourd'hui au gouvernement, se positionne pour tenter de peser. Le baroud d'honneur de François Barrault. Baroud d'honneur, c'est quand il y a quand même assez peu de chances que ça passe. Voilà. Avec effectivement cette information, le Premier ministre devrait entamer cette semaine des consultations politiques pour tenter d'arracher la confiance des députés avant le vote couperet du lundi 8 septembre. Ça semble le Beyrouth d'honneur, joli. Ça aurait dû être. T'as raison. Excellent ceux qui me sortent le Beyrouth ou le Beyrouth d'honneur. Les Échos auraient pu le faire en vrai. Joli, joli. Joli. Merci Mimille. Merci Flox. Merci Moumou des Mouettes. Merci RS1. Faire semblant d'y croire pour l'interrogation. Une semaine avant le vote de confiance qu'il a demandé aux députés et qui a 99% de chances de se solder par un échec, Bayrou s'est donc invité dimanche sur quatre chaînes d'information, BFM TV, CNews et LCI France TV Info. Quelqu'un m'a dit que c'était un peu raté là tout à l'heure dans le chat. Moi j'étais à Berlin, j'ai pas regardé. Il a de nouveau alerté sur la situation des finances publiques, demandant un soutien des parlementaires sur son constat. Voilà. Donc lui, il demande un vote de soutien, un vote de confiance de l'Assemblée sur le constat. Est-ce qu'on a un problème de déficit? Est-ce qu'on a un problème de charge de la dette? Ce qui est un vrai sujet d'ailleurs, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt sur la manière de réduire ce déficit, évidemment, que les politiques ne sont pas d'accord. Nous, quand on sera à l'Élysée en 2027, on essaiera de trouver les solutions. La question, ce n'est pas le destin du Premier ministre, c'est le destin de la France, déclare Bayrou, qui ne veut pas dire au revoir. Voilà. Comme il le fait à chaque prise de parole sur le sujet depuis le printemps, le Premier ministre s'est donc livré dimanche, petit résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme moi, à un long et complexe exercice de pédagogie, souvent brouillon. Jamais il n'a esquissé la moindre responsabilité dans la situation actuelle, alors qu'Emmanuel Macron, qu'il soutient depuis le début, est aux manettes depuis 8 ans. Si les gouvernements successifs ont enchaîné les déficits depuis un demi-siècle, c'est parce que les Français le demandaient, a-t-il estimé. C'est la faute des Français. Pour Monsieur Bayrou. Merci Andrea, merci Néo. Au cours d'une émission au format inédit qui a souvent tourné au dialogue de sourds, Bayrou a évoqué les jours cruciaux qui lui restent avant le vote du 8 septembre. Il a esquissé une petite ouverture sur sa proposition de suppression de 2 jours fériés qui provoque beaucoup de colère, hein, évoquant une addition finale à un seul jour au lieu de deux, et des mesures fiscales à destination des plus riches. Alors moi, c'est un des reproches que j'ai fait aux propositions qu'il a fait en juillet, c'est que il dit que tous les Français allaient faire des efforts. Alors, il a parlé des retraités, il a parlé des minima sociaux, il a parlé de. Mais il a dit très clairement ce qu'il allait faire pour ces catégories de la population, mais il a évoqué très vaguement une contribution des plus riches, mais sans en dire laquelle. Il a fait un peu la même chose pour les grosses entreprises. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on peut demander aux Français de faire des efforts, mais à condition que tous les Français fassent des efforts. Et donc là, il évoque des mesures fiscales à destination des plus riches. Oui, mais il faut dire lesquelles. Faut dire lesquels. Avec à la gauche sur la fiscalité et avec à l'extrême droite sur l'immigration, François Bayrou qui s'est déclaré prêt à discuter. Mais une nouvelle fois, le maire de Pau se heurte à un mur. Il doit entamer aujourd'hui une série de consultations avec les partis et les groupes parlementaires qui vont s'étaler tout au long de la semaine. Mais les oppositions, les partis dont on parle, restent sur une ligne ferme et les partis, dans leur déclaration, hein, excluent de voter la confiance. S'il n'y a pas Bayrou, c'est la confiance qu'il a demandé. Si les députés ne la votent pas, le gouvernement saute. Voilà, les socialistes viennent de le redire. Décision irrévocable, disent même le PS. RN, idem. Hein. Le RN va voter contre la confiance. Voilà, le RN qui appelle ou à une dissolution, voilà, ou à une démission d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui ne m'arrange pas, parce que. Là, je suis en train de programmer ma propre candidature pour 2027. Et du coup, si c'est maintenant, on va être un peu pris de court. Donc, bon, pourquoi pas, hein? On s'adaptera. Merci Décadragme. Merci pour le soutien. Merci David Baker. Hein? Qu'est-ce que dit Jordan Bardella? Nous avons besoin que le président de la République sorte le pays de l'impasse, assume sa responsabilité, revienne devant les Français, soit par l'intermédiaire d'une nouvelle dissolution, on revote, on réélit des députés. Soit qu'il tire les conséquences de ce blocage, la situation politique est assez bloquée, hein, et qu'il démissionne. Alors, deux démissions, et on en parlera avec un article dans Le Monde tout à l'heure. Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler. Réélu pour 5 ans en 2022, il entend mener son mandat à son terme, il l'a dit plusieurs fois, hein, comme le dit comme Flaque d'eau le rappelle dans le chat, tu as raison. Comme dit Krusty également, Macron ne va pas démissionner. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, en matière politique, tu sais, parfois, il y a des surprises. Il nous manque une nullité comme vous pour sauver la France. Oh, ça se modère, ça. Ça se modère, ça. Ici, on peut ne pas être d'accord, mais il faut l'exprimer de façon un peu élégante, un peu chic, le chic français, tu vois. Un peu de, tu vois, un peu d'esprit. Bon, sinon, ça dégage. Voilà. Mais t'as plein d'autres chaînes, t'as plein d'autres chaînes sur TikTok dont tu vas te régaler. Ça modère ici un petit peu quand on essaie de rester entre gens sympathiques. Ou bah, tu vois. On aime bien les gens qui sont pas d'accord, mais on aime bien quand il y a un peu de correction dans l'expression, quoi. Donc, Macron veut pas démissionner. Alors, je vais vous lire des journaux, parfois je lis des commentaires. Hein. J'essaie de faire les deux, quoi. Donc, il entend mener son mandat à son terme, malgré une situation politique de plus en plus délétère et des nuages qui ne cessent de s'accumuler sur la fin de son second quinquennat depuis la dissolution ô combien ratée de juin 2024. Bon, moi, mon sentiment, c'est que il a même pas, enfin, il a pas mené campagne pour les dernières législatives et il a un peu hérité aussi de son non-engagement dans cela, quoi. Et je cite Macron de point volé guillemets, la démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Soit c'est pas faux. N'en déplaise à compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Et toc. Voilà. Donc lui ne veut pas entendre, vous avez raison, parler de démission. Fragiliser le chef de l'État veut faire croire ou faire semblant qu'il y a un chemin pour éviter la fin du gouvernement Bayrou. Pas sûr ça. Et le monde va nous parler de l'après Bayrou d'ailleurs. Donc, pas démission et alors dissolution. Moi, je vous ai rappelé il y a quelques semaines que ça y est, le cooldown de la dissolution, un président ne peut pas dissoudre quand il le chante, il doit y avoir un an entre deux dissolutions, pour faire simple. Et donc, moi, je vous ai signalé il y a quelques semaines que ça y est, le cooldown est terminé et le président Macron peut à nouveau dissoudre l'Assemblée. Quant à une dissolution, elle est officiellement exclue par l'Élysée, mais Macron n'oublie jamais de rappeler qu'il a récupéré cette arme, voilà, un an après avoir appuyé sur le bouton en juin 2024 après les élections européennes. Échec des européennes. Cette hypothèse donne des sueurs froides à tout le monde, alors qu'elle est pourtant jugée inéluctable par nombre d'élus. Ok. En gros, ils veulent pas revenir dans leur circonscription, quoi. Et d'ici là, la France s'apprête à vivre une rentrée sociale sous tension, puisqu'on a le vote du 8 septembre, mais on a aussi cette journée très importante du 10 septembre. Hein. Le mouvement appelant à bloquer le pays, qu'est-ce qui va se passer le 10 septembre? De leur côté, les syndicats ont appelé à une journée de mobilisation le 18 septembre, voilà pour cette semaine sociale extrêmement chargée. Alors Le Monde, on a vu les échos là, je vais vite ce matin, il y a moult d'actu. Hop. Le Monde se pose la question de l'après Bayrou. La une du Monde, elle est ici. Crise politique, la pression se porte sur Macron, justement. Merci Mounox91. Merci Alex, merci David. Après la chute annoncée de François Bayrou, vous voyez que le monde ne doute pas non plus de l'issue du vote, le chef de l'État se retrouve en première ligne. Emmanuel Macron repousse par avance le scénario d'une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles législatives réclamées par le RN et LFI, c'est des infos qu'on a déjà données. On a un Parlement qui reflète les fractures du pays. Moi, j'estime que le président Macron en est pour partie responsable, je vous le dis très vite, mais. Alors, il y a deux analyses de la situation. On a un Parlement, une Assemblée qui a éclaté, il n'y a pas de majorité. Voilà, il y a un gros bloc de gauche avec LFI dedans, il y a un gros bloc RN, il y a le LR, il y a le camp macroniste qu'il en reste. Voilà. Et donc, alors, on peut. La lecture de Macron, c'est la faute des Français. C'est les Français qui ont voté comme ça aux dernières législatives. Les Français voulaient une assemblée éclatée en plusieurs parties. Bon, bah voilà, c'est au Parlement de s'adapter. Et puis à moi aussi. Moi, mon analyse, elle est un peu différente. Moi, je pense que le président Macron a fait une faute politique forte en ne s'engageant pas dans la dernière campagne des législatives. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il a, il a, enfin, il y a eu deux, il y a eu deux fautes. Au lendemain de sa réélection en tant que président, il a disparu. Voilà. Il ne s'est pas engagé pour les législatives. Il n'a pas appelé les Français à demander qu'il lui donne une majorité de gouvernement. Un président qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est un président nu, très affaibli. Donc, au lendemain de sa réélection, il ne fait pas campagne comme il aurait dû le faire. Et ça, c'est pour moi, c'est une grave erreur de lecture de notre système politique. Voilà. Et puis après. Donc, il a le résultat, il a une assemblée qui lui convient pas. Et après, il dissout derrière, après les européennes. Et il se retrouve avec, une majorité encore plus faible. Double erreur, double responsabilité. Donc c'est bien beau de dire on a un Parlement qui reflète les fractures du pays. Je pense qu'il aurait quand même pu mieux se débrouiller que ça, quoi. À mon tout petit niveau, j'estime qu'il y a une double faute politique. Les oppositions, elles, mettent en garde contre la nomination d'un nouveau Premier ministre de centre-droit, proche de la ligne Macron, quoi, assurant qu'il sera immédiatement censuré. Enfin, la gauche, par exemple, appelle à nommer un Premier ministre de gauche. Et le RN, un Premier ministre d'extrême droite. Et puis, il y a le spectre d'un mouvement social d'ampleur le 10 septembre et le vote du budget qui oblige le chef de l'État à agir vite. Voilà. Lisons, je pense qu'on a l'essentiel, mais lisons en diagonale cet article pour voir s'il rajoute des choses. Merci Jeff, merci Shibani. J'essaie de vous lire en même temps aussi, mais comme il y a beaucoup d'actu ce matin. Grosse Berthe estime que Bayrou n'a toujours pas compris, et comme 90% de la classe politique, les Français sont conscients de la charge de la dette, mais demandent un dégraissage des abus slash avantage de la classe politique et des privilèges de celle-ci avant un gros dégraissage de l'État. Ça ne suffira pas. Les économies que tu évoques ne suffiront pas à réduire la dette, puisque même si abus il y a, le nombre de personnes concernées fait que ça ne peut pas aider à baisser drastiquement la dette. Là où je te rejoins, c'est que je pense que ce genre de message, les Français doivent faire des efforts, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et si les élus ne montrent pas l'exemple, si les Français les plus riches ne montrent pas l'exemple, si on ne les aide pas à montrer l'exemple, si les entreprises les plus à l'aise financièrement ne montrent pas l'exemple, tu ne peux pas demander aux Français de faire des exemples. Je te rejoins totalement sur cette analyse. C'est ce qu'on fera nous en 2027. Merci Eto. 78-17 pour le prime. Voilà. Oui. Chris Prout a raison. Ça ne suffit pas, mais ça montre l'exemple. Je suis complètement d'accord. Ouais. Ouais, Choupi. Ça ne suffira pas, mais ça montre que tout le monde participe, y compris ceux qui demandent des efforts. Je suis tout à fait d'accord. Je ne comprends pas que notre classe politique dans son ensemble ne l'a pas compris, ça. Ouais. Alors, lisons cet article vite fait. Voilà, 8 jours du vote de l'Assemblée, quasi perdu d'avance pour Bayrou, vous voyez. Tous les regards se tournent désormais vers le chef de l'État. Donc on a vu, il y a deux pistes. Hein. Enfin, il y a trois pistes. Il y a démission, Macron. Dissolution de l'Assemblée. Et puis, on change rien et il nomme un nouveau Premier ministre. Qui? De quel bord? Pour quelle politique? Ha! En fait, il y a trois pistes. Lui... Il veut croire que Bayrou va pas sauter, mais ça me semble un peu compliqué. Donc, Le Monde nous rappelle que le locataire de l'Élysée a repoussé deux scénarios plausibles. Donc, on en a parlé, la nouvelle dissolution et la démission. Ça, on vient d'en parler, donc on va pas le redire. Mais il agite la dissolution comme une arme de dissuasion pour discipliner les troupes. Parce que j'ai l'impression que certains partis ne veulent pas retourner aux législatives tout de suite, quoi. Notamment les socialistes se seraient inquiets d'une telle hypothèse. Les républicains également. En revanche, l'analyse du côté de l'Élysée, c'est que ces nouvelles élections pourraient profiter à LFI et au Rassemblement national. Donc en fait, il y a une petite menace sur les autres partis en mode... Attention, parce que si on voit la dissolution, vous allez prendre cher, quoi. Hein? La crise de gouvernabilité que traverse le pays donne des ailes au leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et à la présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen. Tous deux assument de se servir de la chute du gouvernement Bayrou pour atteindre Emmanuel Macron afin de provoquer une élection présidentielle anticipée. Sachant qu'en plus que Marine Le Pen... Alors, il est inéligible, Marine Le Pen, aujourd'hui. Qu'on se penche sur le cas de Marine Le Pen. Si jamais un jour on voit qu'il y a une possibilité de présidentielle anticipée par démission du président Macron, on se penchera vite sur le statut judiciaire de Marine Le Pen, savoir s'il y a eu appel, s'il y a eu, où on en est, on se repenchera là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé à une époque. Mais par-delà, Le Pen sera important, ça. Mais on ne va pas le faire ce matin, on va manquer de temps, mais on le fera, ce sera essentiel. Mais, la phrase est intéressante, écoutez. Mais, Emmanuel Macron assiste impuissant à la levée progressive du tabou dans les cercles dirigeants sur son maintien au pouvoir. Cette petite musique d'une démission du président Macron. Bien au-delà de LFI et du RN. Le chef de l'État est jugé responsable d'une crise politique. Bon, c'est un peu ce que je vous disais, hein. Décuplé par ses dissolutions ratées et qui menace maintenant de muter en crise économique et sociale d'ampleur. Cette responsabilité politique qu'a le président Macron dans la situation politique d'aujourd'hui, il n'est pas le seul, mais il en a sa part. Certains disent il faut l'assumer, quoi. Alors, la troisième hypothèse que j'ai évoquée, pas de dissolution, pas de démission, c'est un nouveau gouvernement. Une fois François Bayrou évincé de Matignon, la tentation pour Emmanuel Macron serait de nommer un autre de ses fidèles ou représentants de la droite ou du centre qui apparaîtrait plus souple que Bayrou sur la question du budget. Alors quel nom? Les noms des ministres Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, Catherine Vautrin, actuel ministre du Travail et de la Santé, Darmanin, actuel garde des Sceaux, Justice, Éric Lombard, ministre de l'Économie, circulent pour incarner cette politique de compromis. Ouais. Ou du moins un pacte de non-censure avec le PS. C'est la petite politique tout ça, hein. C'est des discussions d'arrière-cuisine. Hein. Merci Eto pour le prime. Merci Shibani, merci Jeff, merci Almri Grison. Or, ce scénario privilégié à l'Élysée omet un point essentiel, merci Le Monde de dire les termes, la gauche et l'extrême droite n'ont jamais digéré d'avoir été écartées de Matignon alors qu'elles revendiquent chacune la victoire au lendemain des législatives de 2024. Et c'est ce que dit LFI et RN, c'est-à-dire que si vous nous remettez un premier ministre de droite ou macroniste, on va le faire sauter tout de suite, quoi. Le 8 septembre au soir, Emmanuel Macron risque de se heurter à cette soif de revanche et de remise en cause de sa politique, notamment économique. D'autant que, et c'est pas terminé, et on enchaînera, le mouvement contestataire du 10 septembre, Bloquons tout, dont on a beaucoup parlé ici et dont on va continuer à parler à mesure qu'on va se rapprocher de cette date, bien sûr, c'est lui formé contre le budget très impopulaire de Bayrou. Tiens, voilà. Je cite Mélenchon, « Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que le nôtre », a menacé vendredi soir le dirigeant insoumis. À l'extrême droite, qui parle ? Alexandre Loubet, député RN de Moselle, « On ne croit plus à un troisième ministre, troisième premier ministre proposé par Macron, capable de proposer une autre politique. » Marine Le Pen et Jordan Bardella menacent désormais de renverser tout premier ministre issu de ce bloc central ou de droite républicaine, afin de précipiter un retour aux urnes, donc législative. Pression des oppositions, vote. Il est pas mal cet article en vrai. Parce qu'il, je trouve qu'il est clair assez. Il explique assez clairement des choses qui pourraient être dites de façon beaucoup plus compliquée. Pression des oppositions, vote du budget avant le 31 décembre. N'oublions pas que la France a besoin d'un budget aussi. Spectre d'un mouvement social d'ampleur, habitué à étirer le temps pour mieux se placer au centre du jeu, le maître des horloges, comme on dit. Emmanuel Macron pourrait cette fois-ci être contraint de réagir au plus vite pour ne pas perdre pour de bon le fil de son mandat. Excellent article, masterclass de Mariama Daramé. Je trouve que l'article est vraiment très clair. Je vous lis un petit peu, vous en pensez quoi? Et puis on enchaîne, les amis. Alors oui, Nicolas a raison, c'est ce que je me disais à l'instant, mais je ne l'ai pas... Oui, t'as raison. Si premier ministre de gauche, il se fera renverser par le RN. Si premier ministre RN, il se fera renverser par la gauche. Ce serait... En vrai, on a eu beaucoup de choses sous les deux mandats de Macron, mais moi, en tant que spectateur de la politique... On pourrait se régaler de voir un président Macron avec un premier ministre de gauche. Alors de gauche, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gauches. Quelle gauche déjà? LFI, PS, communiste, pas la même. Idem, Macron avec Bardella ou Marine Le Pen à Matignon. Marine Le Pen est inéligible, mais Matignon, c'est pas un poste électif, c'est pas un mandat, donc elle pourrait être... Imaginez la cohabitation de fou, quoi. Le spectacle, quoi, le content. C'est tout pour le content. Ça, ce serait quelque chose de fou. Un ministre socialiste, je vois pas LFI qui validerait un ministre socialiste. Hein. Et je vois pas un président Macron accepter de cohabiter avec un premier ministre LFI ou un premier ministre RN. Pardon pour le mot, mais c'est bien le bordel. Hein. Je vous lis un petit peu. Est-ce que les proportionnelles peuvent nous sortir de tout ça? Alors la proportionnelle, Tanguy, elle renforcerait, ce serait pire. Moi, je ne suis pas contre la proportionnelle, mais la proportionnelle intégrale, en tout cas. Après, la proportionnelle, elle peut être corrigée, elle peut être amendée, elle peut être... il y a plein de formes de proportionnelle, mais la proportionnelle, elle est censée éclater encore plus une assemblée, donner encore plus de députés aux plus petits partis, quoi. Et encore moins de primes aux gros partis, quoi. Donc la proportionnelle est un mode de scrutin extrêmement démocratique, mais qui souvent crée beaucoup d'instabilité politique. Moi, je pense que la France a surtout besoin d'être convaincue par des programmes portés par des partis et des hommes et des femmes, et aujourd'hui les Français ne sont pas convaincus et ils sont très divisés. C'est d'où ma candidature en 2027, avec un programme qu'on va co-construire ensemble. Bon, croyez-moi, on va en parler tous les matins sur cette chaîne pendant les prochains mois. L'actualité politique est un peu folle. On vit un contexte politique qui est inédit, hein. Enfin, là, ce qu'on vit sous la cinquième, cette situation-là, bordélique, en vrai, elle est à la fois, elle est très intéressante, elle est un peu inquiétante aussi, mais elle est inédite. Et oui, tous les sujets dont on est en train de parler là, mode de scrutin proportionnel, scrutin majoritaire, le vote par approbation, moi je crois beaucoup au référendum. Si on s'amusait à porter ensemble une candidature à la présidentielle et qu'on construisait ou co-construisait un programme, ben, en fait on se pencherait stream après stream sur toutes ces questions. On consacrerait un stream à telle question, un stream à telle question, une série de streams à telle question. Et on essaierait d'abord de comprendre ensemble. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais c'est quoi la proportionnelle? Bon, là, j'ai pas le temps de répondre ce matin parce qu'on est un peu à la rue. Mais on prendrait le temps. C'est quoi la proportionnelle? Comment ça marche? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est pas bien? Voilà, c'est quoi le vote? Le référendum? Pourquoi il a été aussi peu utilisé sous la cinquième? Quel serait son intérêt? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait pour la dette? Qu'est-ce qu'on fait pour... etc. Donc, ce serait vraiment marrant à faire, quoi. On irait au-delà de l'actualité, on essaierait de construire quelque chose ensemble. On ferait des sondages pour définir un programme. Ce serait amusant. Alors, du coup, le programme ne représenterait pas la pensée de la commu ou des commus et du chat, puisque il faudrait faire des sondages. Et puis, en gros, ce serait ceux qui voteraient le plus. Ce serait imparfait, mais c'est pas inintéressant comme démarche. On pourrait faire ça. Bah, pour ça, il faut atteindre le million au donation goal du Zievote. Merci, Isara Kiri. Merci Pébacite, merci Eto, merci Mounox, c'est incroyable. Merci Turbojet, merci Almeric, merci Natinigno. Voilà politique, on y reviendra, on y reviendra. Politique encore, mais aux États-Unis, très vite, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que peut-être que vous allez en entendre parler dans les prochains jours et je voulais vous donner des clés de lecture là-dessus. Vous avez entendu parler de la guerre commerciale lancée par le président Trump aux États-Unis contre plein de pays. Hein, qui a provoqué tant d'émoi en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Voilà. Et il y a un truc qui vient menacer ces décisions sur les droits de douane et qui vient non pas de l'étranger, mais de l'intérieur des États-Unis, revers judiciaire pour Trump, revers aux États-Unis, puisque une cour d'appel fédérale a confirmé vendredi qu'une grande partie des taxes douanières étaient illégal. Bon, je suppose, par rapport à la Constitution, on va le vérifier. Alors, c'est une cour d'appel fédérale. Il y a d'autres étapes juridiques, judiciaires qui arrivent. Donc, ça n'est pas terminé cette histoire, mais il vient de se passer un truc qui n'est pas une bonne chose pour. Merci Autodidaxisops pour ton message. Voilà, qui pourrait menacer cette politique commerciale décidée par Trump. Dans la guerre commerciale qu'il mène au reste du monde, écrit le correspondant à New York du Monde, Trump vient de subir un revers majeur. Infligé par la justice de son pays. Une cour d'appel fédérale a confirmé vendredi que les droits de douane généralisés, dont on a beaucoup parlé ici, appliqués unilatéralement par le président américain aux autres pays de la planète, sont illégaux, carrément. Cette décision vient potentiellement balayer l'un des piliers de la politique économique trumpienne. La bataille judiciaire n'est pas finie, puisque ce jugement de 127 pages confirme une première décision qui avait été rendue durant l'été pendant. L'été par la Cour de commerce internationale, juridiction américaine mais d'un degré inférieur, on est en train de se pencher sur le système judiciaire américain. Elle ne prendra effet que le 14 octobre, le temps pour l'administration de saisir la Cour suprême sur ce sujet, dans l'espoir que la Cour suprême va invalider la décision des juges. Voilà. Donc le président Trump va en appeler à la plus haute juridiction des États-Unis, cette Cour suprême qui est à majorité conservatrice, avec notamment des juges qui ont été nommés par Trump lors de son premier mandat, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et lui aussi, il dramatise un peu comme Bayrou en France sur un autre sujet, et sur son réseau social Truth Social, parce que Trump a son réseau social à lui. Il faudra qu'on y pense, nous aussi, les amis. Quoi qu'on l'a déjà, nous, c'est Twitch, TikTok aussi. Il a rappelé que les taxes étaient encore en vigueur. Il a dramatisé l'enjeu. Si elle était maintenue, donc cette décision du système judiciaire américain contre ses droits de douane, elle détruirait littéralement les États-Unis d'Amérique. Alors, question centrale pour Trump, c'est pas qu'une histoire de droits de douane. Merci Art and Fact pour ton soutien. Merci Jossi. Les droits de douane généralisés sont l'alpha de sa politique économique et l'oméga de sa vision géopolitique. Selon lui, ces taxes vont permettre à la fois de combattre le déficit commercial, c'est pour ça qu'il a fait tout ça, hein, de remplir les caisses de l'État, de régler ses comptes avec les pays étrangers qui sont accusés de profiter de la générosité des États-Unis, de punir ceux qui mènent des politiques intérieures qui lui déplaisent, comme par exemple au Brésil dont la justice veut poursuivre l'ancien président d'extrême droite Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Et peu importe que certains de ses objectifs soient contradictoires ou que son analyse des rapports commerciaux avec les autres soit contestable. Donc c'est vraiment très central chez lui. Alors, que reprochent les juges qui disent que ces décisions de guerre commerciale sont illégales? Le Monde explique qu'il faut remonter au début du mandat. Dans les premières semaines, Trump avait imposé des droits de douane massifs sur le Mexique et le Canada, vous vous souvenez, hein, qui sont les deux principaux partenaires des États-Unis. Voilà. Normalement, c'est le Congrès et pas le président qui a la main sur la politique commerciale dans la Constitution américaine. Mais l'administration Trump avait trouvé une parade, un texte de 77 qui s'appelle l'Emergency Economic Power Act, qui, en cas de force majeure, étend les pouvoirs du président. Toute la question est de savoir jusqu'où. Vous suivez? Ah oui, parce qu'on est comme dans un état de droit, il y a des règles. Et quand tu ne respectes pas les règles... Écoute, Tanguy, au lieu de spammer la même question, mais pourquoi la Cour suprême a ses droits? La réponse est dans l'article. Ouais. Hein, on est pas au McDo ici. Enfin, si, c'était au McDo d'ailleurs. T'as demandé un double cheese, il arrive, il est en cuisine. Je peux pas aller plus vite que la musique. Les droits de douane auraient été appliqués au nom de l'urgence nationale, à l'époque, dans la lutte contre les cartels de la drogue et les filières du fentanyl qui traversent la frontière mexicaine, ce qui est incontestable, et canadienne, ce qui est moins évident. Donc, il y avait urgence, because trafic de drogue, frontière mexicaine et Canada. Voilà. Puisque, comme c'est une décision exceptionnelle, il faut la motiver. La Chine, qui a accusé, elle, de fournir les précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl, s'était également vu infliger des taxes à l'exportation vers la Chine. Donc, le motif, c'était de la lutte contre la drogue. OK ? Fort de ce coup d'essai, Trump avait décidé début avril de dévoiler une liste de pays qui feraient désormais face à des droits de douane dits réciproques. On n'était plus que sur la Chine, le Mexique et le Canada, mais sur plein d'autres. Voilà. Dans l'esprit du président, tous les États qui entretiennent un excédent commercial sur les biens avec les États-Unis profitent de la situation. En gros, dès que la balance commerciale n'est pas en faveur des États-Unis, Trump dit « il y a un problème ». Et il dit « ça aussi, c'est une urgence ». Vous voyez ? En fait, on joue sur la notion d'urgence. Normalement, la politique commerciale, c'est le Congrès. Il y a un texte 77 qui dit « ouais, mais alors le président peut peut-être s'en occuper également en cas d'urgence ». Et donc c'est sur la notion d'urgence qu'il y a un débat. Pas mal, non? Voilà. Par exemple, l'Union européenne, pareil, on exporte plus de les États-Unis qu'on importe des États-Unis, sauf que si on prend en compte les services, ça s'équilibre. Mais bon, donc du coup, Trump dit « pareil pour l'Europe, il y a l'urgence ». Donc après, la suite, vous la connaissez, des droits de douane supplémentaires concernant 70 pays, hein, 15% pour l'Union européenne, par exemple, beaucoup plus pour certains pays comme le Brésil, comme la Suisse, pour X raisons dont on a beaucoup parlé déjà ici. Voilà. Alors, les négociations économiques battaient leur plein, mais la machine judiciaire était aussi en marche, hein, puisque des boîtes privées d'import ont porté l'affaire devant cette Cour de commerce internationale, qui est une cour américaine, voilà. Et les juges saisis ont estimé que l'interprétation du texte de 77 par l'administration Trump était... Salut Maxence. était erroné. Voilà. Ouais, pas mal, hein. Trump aurait outrepassé ses prérogatives et empiété sur celles du Congrès. Voilà. Alors maintenant, on attend la décision de la Cour suprême. Et pour répondre à la question tout à l'heure, en me disant, mais pourquoi la Cour suprême a autant de pouvoir? Dans un état de droit, en fait, tu as une hiérarchie dans... Alors, les gens qui ont fait du droit le savent, hein, y a une hiérarchie dans... je suis pas un grand juriste, moi. Mais à la fois dans les lois, hein, la norme constitutionnelle étant tout en haut, dans le bloc de constitutionnalité. Et c'est vrai aussi pour la hiérarchie des normes, oui, mais aussi pour les tribunaux. Hein. Tribunal d'instance, tribunal d'appel, etc. En France, on a ça aussi. Donc, voilà. Et notamment, plus tu montes, et plus, en fait, la justice doit dire si le droit a été respecté. Hein. Plus on monte, et moins on s'intéresse au fond, mais à la forme. Est-ce qu'on a respecté la loi, tout simplement, hein. Bon, dans un état de droit, respecter le droit, respecter la loi, c'est la base. Cette loi qui a été votée par le législateur, qui est issue dans une société démocratique des élections. Je fais très vite. Voilà. Alors, la Cour suprême est tout en haut de cette pyramide aux États-Unis. Hein, hein. Et la question, c'est cette Cour suprême qui est aujourd'hui à majorité conservatrice, proche de Trump, qu'est-ce qu'elle va dire, hein. L'enjeu est considérable. Plus que le sujet de droit de douane, c'est au fond la question de savoir jusqu'où Trump peut étendre son emprise qu'elle doit désormais juger. On est au-delà de la question de droit de douane, on est dans la définition des rapports du pouvoir du président américain. Jusqu'où peut-il aller? Sur quoi il a la main? Voilà. Trump s'en moque de l'état de droit, cela dit, il est en train d'organiser une dictature, me dit Jolioc. C'est une lecture de beaucoup de gens, effectivement, des opposants à Trump aux États-Unis. Il est en train de changer la nature de la démocratie américaine avec un président au super pouvoir qui s'embarrasse de moins en moins des pouvoirs intermédiaires, quoi. L'autre réaction est celle des marchés. Hein. Les milieux économiques ne seraient pas mécontents de voir tomber les droits de douane, puisque pour le libre-échange, pour les échanges, bon, les droits de douane, c'est pas une chose extraordinaire. Mais paradoxalement, l'entrée en vigueur des taxes le 7 août avait été accueillie assez calmement pour les marchés, puisque ce que n'aiment pas les marchés financiers, les entreprises, c'est l'inconnu, c'est les règles du jeu. Et c'est pour les investissements, voilà. Au moins, même si ce n'était pas forcément bonne pour les sociétés exportatrices dans beaucoup de pays, au moins, elles étaient définies, quoi. Donc, repartir dans le flou, l'incertitude, merci Epsidev, c'est le mot que je cherchais. Voilà, si on repartait dans une zone de flou, si la Cour suprême censurait, par exemple, les décisions en matière de guerre commerciale de Trump, les marchés replongeraient, comme le dit Nicolas Chapuis, dans un océan d'incertitude. Ouais. Là, c'est marrant, hein. Moi, le Monde est un journal qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui a des défauts, des qualités. Moi, qui est un des journaux que je lis, donc ça veut dire que je l'apprécie plutôt. Mais là, entre le papier sur l'après Bayrou et le papier sur les soucis de Trump autour de la guerre commerciale, je trouve que des sujets assez compliqués sont traités de façon assez claire, quoi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez inintéressant. Alors, attention, c'est pas fait, hein. On attend maintenant la décision de la Cour suprême. Mais quand vous allez voir dans quelques jours, ou quelques semaines, je sais pas quand ça va tomber, la décision de la Cour suprême sur le sujet, vous vous direz, ok, je sais de quoi on parle, quoi. Merci la grosse barbe pour le Prime. Merci Elias pour le soutien. Merci à tous les deux. Merci René. Allez, on va passer à l'info suivante. Bande de beaux gosses. Yuneko, effectivement, si Trump outrepasse ses droits et s'octroie des pouvoirs dont il n'est pas censé disposer, on se rapproche très visiblement d'un abus de pouvoir et donc d'une possible dictature. C'est un débat qui est en cours aux États-Unis, ouais. Défécateur, notre ami Défécateur qui lutte contre les fake news sur Internet, nous dit « Bah oui, mais 6 juges républicains, dont 3 nommés par Trump sur 9 juges, hélas, l'équilibre n'est pas assuré. » Après, les juges de la Cour suprême, même s'ils sont nommés par le président, ils ont une vraie indépendance, le mandat est très long, et ils peuvent à un moment estimer que le droit est plus important que la politique. À voir. À voir. Je ne veux pas préchote la décision de la Cour suprême, quoi. C'est un mandat à vie. Mais je crois que t'as raison, je me demande, c'est pas un mandat à vie. Sbirien dit c'est un mandat à vie. Je crois que le mandat de la... Hein, défécateur, c'est ça, non? Le mandat, c'est jusqu'à la mort du juge, non? Donc ça a une indépendance de fou, parce que le juge de la Cour suprême, il est nommé par le président, mais il peut pas être démis par le président. Il peut pas être enlevé de son poste. C'est un mandat à vie, c'est un mandat à vie. Ça lui donne une indépendance de fou. Ça lui donne une indépendance de fou. Ouais, c'est un mandat à vie. Ouais, ça, ils sont très très vieux, ouais. Et donc, une fois qu'il est nommé, il est total, il fait ce qu'il veut, tu vois. Trump peut pas l'appeler en disant, dis donc, t'es gentil, je t'ai nommé, je vais te virer. Trump ne peut pas virer un juge de la Cour suprême. Alors c'est bon, c'est un peu inquiétant quant à la moyenne d'âge des juges de la Cour suprême, mais ça leur donne une indépendance de psychopathe. De psychopathe. Oui. Bon, ça, c'est ma vision optimiste des choses, quoi. On enchaîne? Allez, on parle de la Palestine, on parle de Gaza, avec cette une très forte sur les journalistes tués à Gaza de l'Humanité ce matin que je vous montre tout de suite, qui est ici. Sur cette chaîne, on parle de ce qui se passe à Gaza, des Palestiniens, d'Israël, quasiment tous les jours. Ici, c'est la une de l'UMA que je voulais mettre en avant, qui est en fait l'UMA qui rejoint 150 médias d'une cinquantaine de pays. Pour dire ceci, au rythme où les journalistes, qui sont essentiellement des Palestiniens, hein, puisque Israël interdit aux journalistes étrangers de se rendre à Gaza depuis très longtemps, au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l'armée israélienne, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. Alors je vous le disais, c'est une initiative de Reporters sans frontières, RSF, l'ONG. 150 médias d'une cinquantaine de pays réunis à l'initiative de RSF se mobilisent aujourd'hui, ce lundi, avec les journalistes palestiniens de la bande de Gaza. Merci Draft. Merci Bocas. Voilà. Donc, je vais vous lire cet encadré et après, je vous montrerai une page qui est assez forte, qui a les visages de ces journalistes qui ont été tués jusqu'ici. Plus de 200. Il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. Au moins 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Nous, journalistes de plus de 150 médias dans le monde, c'est le texte de RSF, dénonçons ces crimes. 150 médias répartis dans une cinquantaine de pays réunis à l'initiative de RSF et Avaaz se mobilisent ce jour en solidarité avec les journalistes palestiniens de la bande de Gaza. Des pages entièrement ou partiellement noires en une des journaux. Des bannières sur les sites d'information en ligne et des messages audio-vidéo diffusés par les radios et les télés marquent cette mobilisation qui est internationale. Au moins 200 journalistes ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza en près de 23 mois, depuis les attentats du Hamas. Ce sont des chiffres de Reporters sans frontières. Dans la nuit du 10 au 11 août, l'armée israélienne a tué 6 journalistes dans une frappe ciblée et revendiquée contre le correspondant d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif, ce dont on a parlé ici. Ensemble, nous dénonçons le meurtre des journalistes par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, dans la lignée de l'appel à l'initiative de RSF et du Comité pour la protection des journalistes publié en juin. Ensemble, nous demandons, dit cet appel, aux autorités israéliennes de permettre un accès indépendant de la presse internationale dans la bande de Gaza, puisque je vous le rappelle, Israël interdit aux journalistes étrangers de se rendre à Gaza pour témoigner de ce qui se passe. Dans la poursuite du même appel, à 8 jours de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, qui devrait voir plusieurs pays reconnaître l'État de Palestine, je vous le rappelle, dont la France, nous exigeons une action forte de la communauté internationale afin de stopper les crimes de l'armée israélienne contre les journalistes palestiniens. Voilà. Je vais vous lire, mais je voudrais vous montrer cette page qui est très forte aussi. L'Humanité a collecté, alors pas les plus de 200, il manque quelques photos, mais 198 portraits de journalistes palestiniens parmi les plus de 200 tués. Par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, donc vous l'avez compris, depuis les attentats du Hamas. Toutes ces hommes, toutes ces femmes sont des journalistes qui ont péri dans l'exercice de leur métier à Gaza, et tous sont palestiniens. Doit-on mourir parce qu'on fait son métier? Doit-on mourir parce qu'on essaie de témoigner de ce qui se passe? La réponse, vous la connaissez bien sûr. Je prends le temps, mais je voulais vous montrer ces visages. Là, nous parlons des journalistes. Il est évident que je n'en parle pas parce que ce sont des journalistes. Je vous parle des victimes civiles à Gaza depuis des mois déjà. Il se trouve que là, il y a un coup de projecteur sur ces visages-là. Je vous lis, j'essaie de vous lire. Il y a 198 photos. Depuis octobre 2023, RSF estime qu'il y a un peu plus de 200 journalistes palestiniens qui ont trouvé la mort. Dans la bande de Gaza depuis les attentats du Hamas. De temps en temps, nous on lit des articles, on lit des mots, on se penche sur des idées, mais c'est oublier que derrière tout ce qu'on lit, tout ce dont on parle, il y a des hommes, il y a des femmes, certains sont très jeunes, il y a des familles, il y a de la vie en fait. Et en fait, c'est oublier que derrière nos grands débats, il y a de l'humain. Et si on se souciait collectivement plus de ça, je pense qu'on agirait différent les uns envers les autres, quoi. Si à chaque fois qu'on faisait une action, on s'interrogeait sur les conséquences humaines de ces actions. Là, on voit ces vies qui ont disparu. Dernière ligne. Je vous lis, pardon. Il y a plusieurs. Dans l'UMA, vous irez lire l'UMA si vous le souhaitez, parce que le dossier est plus important que ce que je viens de vous lire. Par exemple, il y a un article ici sur la légitimation des assassinats des journalistes. Parce que quelqu'un me disait dans le chat, mais quelle motivation d'Israël pour interdire aux journalistes étrangers de se rendre dans la bande de Gaza? Je suppose, je ne me rappelle plus, mais que la légitimation, c'est pour assurer la sécurité des journalistes étrangers. Des journalistes qui risquent leur vie pour informer, il y en a eu depuis toujours. Évidemment, cet argument ne tient pas. Mais là, l'humanité va plus loin, s'interroge sur la légitimation des assassinats de journalistes, puisque Israël, souvent, quand je dis Israël, c'est l'État israélien, bien sûr, hein. Le gouvernement israélien légitime ses actions contre des journalistes, parfois en l'assumant totalement, L'État israélien, en plus de cibler les reporters palestiniens, tente de discréditer leur travail, stratégie qui fonctionne de moins en moins auprès de leurs collègues français, écrit Luma. Luma qui rappelle que la presse internationale n'a pas le droit de citer à Gaza depuis la réplique israélienne aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, et elle se méfie des reporters restés sur place. Surtout, elle prend pour argent comptant la propagande du gouvernement Netanyahou qui justifie systématiquement ses attaques ciblées sur les journalistes par leur soi-disant appartenance au Hamas. Hein ? C'est comme ça que c'est justifié. Certains en France d'ailleurs reprennent ces arguments en disant, en disant ça c'est les militants du Hamas. Ça, il y a des gens qui l'ont dit, ça. Hein, en disant ce ne sont pas des journalistes. Et donc l'humain essaie de déconstruire ces affirmations. Alors c'est alors l'humanité cite, certains le disaient dans le chat, l'essayiste, le philosophe Raphaël Entoven en France, qui a écrit sur Twitter par exemple, il n'y a aucun journaliste à Gaza, mais uniquement des tueurs ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Vous étiez plusieurs à m'en parler dans le chat, cette citation, la voici. Le site Arrêt sur l'image avait expliqué en avril que les journalistes de Gaza croisaient forcément des membres du Hamas, mais ce qui ne fait pas d'eux les terroristes. C'est pas parce que tu croises quelqu'un que tu embrasses ses idées. C'est pas parce que tu interviews, je sais pas moi, un communiste que tu es communiste. C'est pas parce que tu interviews un responsable du RN que tu es du RN. Alors, c'est une évidence, mais faut-il la rappeler ? Voilà. Walid Bourouis, qui est membre du comité national du SNJ-CGT chargé du travail avec les journalistes exilés, complète. Ces journalistes vivent sur place, ils relaient l'information, ils donnent la parole à tous, tout simplement. La majorité d'entre eux bossent pour CNN, pour l'AFP, pour Al Jazeera, donc il n'y a pas de surprise. Walid Bourouis raconte à l'inverse les pressions exercées par l'armée israélienne. La majorité des journalistes de Gaza ont déjà reçu un message sur WhatsApp. On sait où vous êtes, vous vous taisez ou on vous cible. Les syndicats français réagissent aussi à ce massacre organisé. Pour Ludovic Finez de la SNJ-CGT, ce qui paraît évident, c'est que le gouvernement et l'armée d'Israël ne veulent pas de témoins de la situation actuelle. Sur l'accusation de plus en plus précise de génocide, de destruction, de massacre, de famine. Il rappelle la position des syndicats de journalistes français SNJ-CGT, SNJ-FO, SFDT dans un communiqué du 25 août. On demande que les conditions de sécurité soient assurées sur place pour les journalistes, c'est quand même la base des enquêtes internationales, l'exfiltration des journalistes palestiniens qui ont rapport avec des médias français, et que la presse internationale puisse entrer à Gaza. Une quarantaine de sociétés de journalistes signent aujourd'hui un communiqué, hein, je vous le disais, qui dénonce les campagnes systématiques de décrédibilisation et de délégitimation du travail de nos confrères de Gaza, ces professionnels de l'information qui risquent leur vie quotidiennement pour exercer leur métier dans des conditions extrêmes, méritent notre respect, notre soutien, non notre suspicion. Les SDJ rappellent avec force qu'avec la mort de ces reporters, c'est la liberté de la presse que l'on assassine. Et c'est la réalité des Palestiniens vivant sous les bombardements, menacés par la famine, qui est réduite au silence. Voilà. Voilà. Bon, coup de projecteur ce matin sur la situation des journalistes palestiniens. Évidemment, ils ne sont pas les seuls civils à Gaza sur lesquels nous nous penchons. Nous le faisons littéralement, quasiment tous les jours sur cette chaîne. Si vous vous intéressez à ce qui se passe dans cette région du monde, revenez, on en parle tous les matins. Rendez-vous dès demain, sûrement, pour une autre actualité sur le sujet. Et notamment, on approche de cette Assemblée générale de l'ONU, très importante, là, où de nouveaux États, parmi les plus puissants au monde, vont reconnaître officiellement l'État palestinien. Voilà, la France notamment, qui ne l'avait jamais fait officiellement. La plupart des pays dans le monde reconnaissent l'État de Palestine, mais très peu du Conseil de sécurité de l'ONU, très peu du G7. Et alors, c'est de la diplomatie, hein, les effets ne seront pas immédiats, mais c'est un move, c'est quelque chose. C'est une condition qui va peut-être permettre qu'on réactive le débat sur la création un jour d'un État de Palestine avec des frontières, une sécurité garantie à ses habitants qui vivraient en paix, même tendue, avec un voisin israélien, quoi. Donc cet espoir, qui est la seule solution du retour de la paix un jour dans la région, qui a été oublié, qui a été battu par les extrêmes des deux camps, peut-être qu'à la faveur d'une pression croissante de la communauté internationale, que j'appelle de mes voeux, peut-être qu'un jour ce débat sera relancé, quoi. Je cite régulièrement à ce sujet l'avis d'un spécialiste, un chercheur de la région, qui disait quelques mois, on avait lu ça dans Le Monde, je crois, la seule solution au retour de la paix un jour dans la région, c'est la création d'un État palestinien, c'est la solution des deux États. Il y a très peu de chances que ça arrive, disait ce monsieur, mais c'est la seule solution. Voilà. On en reparle demain, après-demain, après-après-demain. Ça, on va aller un petit peu sur l'actualité en France. Je vous quitte dans une heure. J'essaie de vous donner un maximum d'infos ce matin. Et encore, je ne vous dis pas tout. On va aller sur la rentrée scolaire. Ah, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, avec la une du Parisien, sur des Français qui seraient de plus en plus tentés par le privé. Par l'école privée. Face aux mots de l'école publique, quels sont-ils ? Le 10 septembre, on va en parler, on va parler beaucoup, bonne pioche. À mesure qu'il y aura des informations importantes sur le 10 septembre, je vais vous en parler, c'est une journée très importante qui arrive. Mais je suis tributaire des journaux là-dessus, on en parlera sans doute demain ou après-demain. Tu vois bien que tous les matins, on essaye de parler d'un maximum d'actu, mais on ne peut pas parler de tous les actus. Pour ça, il faut essayer de venir un petit peu tous les matins. Face aux mots de l'école publique, de plus en plus de Français, de parents, sont tentés d'inscrire leurs enfants dans le privé dès l'entrée en 6e. Je crois qu'il y a une étude là-dessus, parce que Les Échos en parlent aussi. Lisons l'article. Les cours reprennent aujourd'hui pour 12 millions d'élèves. Bon, je crois que ça dépend. Hein, ça dépend de l'âge. Certains reprennent progressivement. Bonne rentrée à tous, d'ailleurs. Bonne rentrée aux élèves, bonne rentrée aux enseignants qui ont repris en général un petit peu plus tôt. Force à vous, faites le plus beau métier du monde. Et donc, bonne rentrée à tous. Les cours reprennent ce lundi pour 12 millions d'élèves. À cette occasion, certains parents décident de quitter le public en raison des difficultés que celui-ci rencontre. Voilà, ils prennent l'exemple d'un petit qui s'appelle Nathan, qui a 11 ans, finit l'école publique de son quartier résidentiel à l'est de Lille, direction le collège privé sous contrat à 25 minutes en voiture. Bon, il va dans une école plus loin, mais elle est privée. On n'est pas pro-public, dit la maman, mais on n'était pas... on est pro-public, pourtant, dit la maman, mais on n'était pas hyper tenté par la structure du secteur. Comprenez, l'école publique du coin nous allait pas trop, quoi. Il aura plus de chances pour son avenir là-bas, dit-elle, cette maman qui est directrice des ressources humaines d'une PME. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ce choix. Selon les dernières données de l'éducation nationale, c'est pour ça que la presse en parle ce matin, il y a une enquête, si le nombre global d'élèves du second degré reste stable dans le public et privé sous contrat, ce dernier, donc le privé, gagne cette année encore du terrain à l'entrée en sixième. Désormais, une famille sur deux a recours au privé au moins une fois dans la scolarité d'un enfant. Pour les spécialistes, attention, hein, ne comprenez pas que tout le monde est en train de partir vers le privé. Hein. Pas de question de parler d'une fuite généralisée vers le privé. Restreint par la loi, et ça moi je l'avais oublié, restreint par la loi à n'accueillir que 20% des effectifs. La loi n'autorise pas l'école privée à accueillir plus de 20% des effectifs globaux des enfants. Ça moi je ne connaissais pas ce chiffre. Donc quand on dit ça part de plus en plus vers le privé, ouais, enfin, c'est quand même très encadré, c'est très limité, quoi. Mais petite musique lancinante qui résonne malgré tout, les mots de l'école publique pèsent sur les parents de plus en plus nombreux à hésiter. Ceux qui franchissent le pas sont, dans la plupart des cas, pas toujours, mais les plus aisés. Hein, il y a aussi une question de discrimination sociale, hein, par l'argent. Voilà. C'est d'ailleurs le constat dressé dans un livre qui s'appelle « Public ou privé, quelle école choisir pour nos enfants ?» écrit par une journaliste qui s'appelle Hélène Hausse, voilà, qui a fait un tour de France des écoles et qui met en lumière l'un des mots principaux de l'école, c'est l'absence de mixité, mixité sociale. C'est le vrai sujet, dit Najat Vallaud-Belkacem, socialiste, ancienne ministre de l'Éducation, qui est citée dans l'ouvrage. Voilà. Voilà, il y a un sujet de ségrégation sociale absolument terrifiant. Comment croire à égalité, liberté, égalité, fraternité dans ces cas-là? un autre ministre qui lui a succédé, Pap Ndiaye, vous vous souvenez peut-être de l'éducation, abonde, la mixité fait progresser le niveau général des élèves, favorise la cohésion de notre société, donne un gros coup de pouce aux élèves défavorisés. C'est documenté. Bon, lui-même qui avait été critiqué pour avoir scolarisé ses enfants dans l'école alsacienne, qui est une école privée très chic de Paris. Bon, faites ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. Un discours que n'entend pas Esteban, père de famille de Marseille, propriétaire de concessions auto. Il fait partie de ses parents qui ont quitté le public et qui assument. J'assume de les faire côtoyer d'autres gamins au fort capital socioculturel pour nourrir leur développement. Voilà. Même chose pour la maman Anaëlle à Lille. Je veux le meilleur pour mon enfant, déplorant la mauvaise réputation du collège public de son secteur. Alors le sujet palestino-israël, mon ami JLT qui spamme ça à peu près toutes les secondes depuis un moment, c'était tout à l'heure. Donc ici, hein, donc il faut venir au bon moment, tu n'es pas au bon moment, voilà. Ah bah c'est... Ah oui, mais excuse-moi, Sugar, je t'avais pas vu. Sugar reprend, j'ai annulé. Je vais le faire, attends. Je le fais. Voilà. Il y a un temps pour tout, hein, les amis. Mais j'avais pas vu Sugar. Surtout le spam, en fait, c'est pas possible. Vous niquez le chat quand vous spammez un message. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous êtes 500 sur TikTok, vous êtes 4000 sur Twitch. Vous imaginez si quelqu'un spamme le même message toutes les 10 secondes, vous empêchez les autres de s'exprimer. Hein. Surtout quand vous arrivez une demi-heure après le débat, quoi. Ok? C'est juste un effort de rigueur, quoi. Donc les plus aisés, les fameux aisés, optent de plus en plus pour le privé sous contrat, financé à 76% par l'État. Eh ouais. Quelqu'un le rappelle dans le chat, oui, tu as raison, c'est le bon chiffre. Le privé est financé à 76% par l'État. Les professeurs, si je ne dis pas de bêtises, du privé sont payés par l'éducation nationale, par l'État. Voilà. 76% parce qu'il y a des choses qui ne sont pas payées par l'État. Je crois que pour la cantine, par exemple. Je crois que la cantine est payée par l'école privée, par les parents. Voilà. Donc on est à 76%. Pour le privé sous contrat, il y a aussi le privé hors contrat. Le privé hors contrat, je pense qu'ils ont... Je ne sais pas s'ils ont moins ou s'ils n'ont pas. Donc les plus aisés optent de plus en plus pour le privé sous contrat. Quand ils n'arrivent pas à accéder au public d'excellence, il y a évidemment d'excellentes écoles publiques, mais quand ils n'y arrivent pas, ils vont dans le privé. Quitte à aller dans une bonne école, si elle est gratuite, let's go, quoi. Voilà. En 2023, 41,7% des élèves dans le privé étaient très favorisés, contre 26,4% en 2000. C'est intéressant ce matin, je prends le temps parce que c'est intéressant. Écoutez, pourtant privé et public rencontrent les mêmes problèmes, comme le recours massif aux enseignements non titulaires du concours pour remédier aux absences. En 2022, écoutez, 18% des enseignants de collège privé n'étaient pas diplômés de l'éducation nationale, alors qu'ils n'étaient que 6% dans le public. Voilà. Mais le plus grand pouvoir des chefs d'établissement dans le privé leur permet de boucher les trous plus rapidement, voilà, les absences. Ce qui soulage les parents. Hein, dans le public, parfois, vous avez des absences de profs qui peuvent durer longtemps et qui sont pas vite remplacées, quoi. Certains en parlaient tout à l'heure. Reste que quand on met des moyens, l'école publique, elle fonctionne bien et partout. À niveau social équivalent, elle ne fait pas moins bien que le privé, dit Jean-Paul Delahaye. Comment faire, dit la journaliste qui a écrit Hélène Hausse le livre, il faut du courage politique. Hein. Voilà. Jean-Paul Delahaye a écouté les dernières déclarations d'Elisabeth Borne, ministre de l'éducation actuelle, sur le sujet. Rien sur le sujet de la mixité, ni dans sa circulaire de rentrée, ni en conférence de presse, s'agace-t-il. Voilà. Et alors, si on veut aller plus loin, je vous invite à lire un autre papier ce matin qui est dans Les Échos, je crois. Ouais. Page 14, qui se penche assez longuement sur le sujet aussi. Donc s'il vous intéresse, vous aurez encore plus d'infos. Qui est ici, voilà. Au collège, l'exode des familles les plus aisées vers le privé s'accentue. Sugar nous dit, pour avoir fait les deux, j'ai pas ressenti de grosses différences. Peut-être moins de suivi et plus d'autonomie dans le public, mais je pense que c'est du cas par cas selon l'établissement. Il y a d'excellents établissements publics, d'excellents établissements privés. Il y a de très mauvaises écoles privées, comme il y a de très mauvais établissement public, quoi. Merci Mimi Violet, merci à ce joli pseudo que je ne peux pas lire, je ne maîtrise pas cette langue, merci à toi pour les roses. Merci Draft pour le 10e mois, merci, merci à toi. Donc on a un dossier ici. Je lis s'il y a des infos que nous n'avions pas sur l'autre papier du Parisien. Moi, je vais quand même vous citer cette phrase de Michel Ménard, qui est le président socialiste du département de Loire-Atlantique. En France, les enfants... Parce qu'on dit souvent le niveau, le niveau baisse en France, le niveau scolaire baisse en France, par rapport notamment aux référents internationaux. Et ce monsieur nous dit, en France, les enfants favorisés réussissent excellemment, alors que les défavorisés rencontrent beaucoup plus de difficultés que dans les autres pays de l'OCDE. Donc en gros... Si tu es dans une famille assez aisée, les résultats souvent suivent. On parle de moyenne. Hein. On parle de moyenne. Alors que si dans une situation défavorisée, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Les déterminismes sociaux dans notre pays sont beaucoup trop importants. De rien, Charlie Tortue. Je vous lis vite, vite fait le papier pour voir s'il y a des infos supplémentaires. Voilà, c'est intéressant. Qui dit ça? Qui dit ça? Manon Garouste. Manon Garouste. Bon, écoutez cette phrase. Il est faux d'affirmer que le public est de moindre qualité. C'est plutôt qu'il est difficile pour le public d'atteindre un niveau scolaire équivalent au privé quand la composition sociale des classes est si différente. L'absence de mixité. Hein. Il y a en effet une corrélation positive entre milieu social des parents et réussite scolaire des enfants. On sait tous que dans les établissements privés... De haut niveau, les enfants qui n'ont pas le niveau, qui ont des difficultés d'apprentissage, d'une manière ou d'une autre, je suis sûr que vous connaissez des situations comme ça, sont poussés vers la sortie. Hein. Pour laisser entre eux les élèves les plus à l'aise, voilà, et pour afficher très, très facilement les meilleurs résultats au brevet, puis au bac. Voilà. Donc il est assez facile d'afficher d'excellents résultats, quand en gros tu écrèmes en poussant gentiment vers la sortie les éléments considérés comme les moins bons, et en ne gardant que les élèves ou les plus favorisés qui peuvent bénéficier de soutien scolaire par ailleurs, ou ceux qui ont des facultés pour en tout cas ce qui est de l'apprentissage scolaire, quoi. Dans certaines écoles publiques, c'est le cas aussi. Oui, je pense que dans certaines bonnes écoles publiques, je pense qu'il doit faire la même chose. Ouais. Hein, ces lycées, collèges et ces lycées d'excellence privés ou publics, il est difficile d'y rentrer et on peut en sortir. Bon, moi, je connais bien le sujet, puisqu'en Bretagne, l'établissement privé catholique est très important, encore plus important que dans les autres régions françaises. Et bon, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le privé, parce que chez nous, c'est un fait culturel et... Les écoles privées sont très très nombreuses, quoi. Et j'ai vu plein de petits copains comme ça qui sortaient du primaire, du collège, du début du lycée, parce qu'on se disait que ça allait pas apporter de la mention à l'établissement, quoi. Mais oui, Julio Franchut me parle du public à Rennes. À Rennes, il y a aussi un excellent public, tu as raison. Mais tiens, on a un petit encart sur le financement du privé. Car oui, le privé sous contrat, est largement subventionné. Les enseignants. Ah, j'ai allumé le ventilo, j'ai perdu l'article. Les enseignants, ils sont rémunérés par le ministère de l'Éducation. C'est dans cet article que j'ai trouvé cette info. Et les établissements reçoivent des aides des départements. En tout, ça représente de 70 à 80% du budget. Donc, l'État, le citoyen, il a son mot à dire sur le fonctionnement des écoles privées, parce que c'est financé à 70 à 80% par l'argent public. Non. En revanche, la contribution des familles doit suffire pour payer le personnel administratif d'un enseignant, la maintenance des locaux, les travaux de rénovation à faire. Je crois que sur la cantine aussi, c'est plutôt les parents qui payent. Voilà. Donc voilà ce constat. Les Français, les familles françaises, les parents français de plus en plus tentés par le privé. Sauf que on a aussi appris ce matin en lisant la presse que il y a une loi en France qui dit qu'il n'y a pas plus de 20% des élèves français qui peuvent se retrouver dans le privé primaire, maternelle, au terminal. Qu'est-ce que je dis? Primaire, maternelle, collège, lycée, excusez-moi. Voilà. Intéressant en vrai. Donc c'est plafonné, quoi. J'accélère, parce que je vous quitte à 12h30. Peut-être vous lire un petit peu sur l'éducation quand même, parce que je l'ai pas beaucoup lu. Samuel, tu devrais faire de la politique. Ce serait ta nouvelle vocation. Le mini-potam, c'est prévu. On est élu en 2027 ici. J'ai deux enfants. J'ai un enfant de 9 ans et qui fait sa rentrée en CM1 et de 5 ans et demi qui fait rentrer en grande section. Question, le privé, c'est sur dossier scolaire de l'élève ou dossier financier des parents? Ben, un peu les deux, mon ami, hein. Après, il y a les écoles privées qui sont chères et d'autres moins chères, hein. Oui, j'ai mis une touche pour diffuser le Spike. On a oublié de binder les bonnes touches. On en parlera ce soir. Streams Valo ce soir. Avec mon maillot l'équipe de France. Salut Bellumix. Ouais, je me rappelle de cette chaîne. Ouais. Mitsugoro dit bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai loupé du live. Pas mal de choses, mais la bonne nouvelle, c'est que mon ami, tu me parles depuis TikTok. Si tu vas sur ma chaîne Twitch, tu as le replay gratuitement, dès maintenant. Tu peux même revenir en arrière dès maintenant. Tu peux le revoir cet après-midi, gratuitement. Et puis, tu peux aller sur ma chaîne YouTube aussi. Le React sera, le replay sera disponible. Voilà. Donc, tu peux récupérer tout ce qu'on a dit sur Bayrou, le fait qu'il va sauter bientôt, sur Macron, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, sur on a parlé de la Palestine et de Gaza, on a parlé de Trump et la guerre commerciale. Voilà. Et donc, tout ça, tu l'as en replay sur Twitch ou sur YouTube. On enchaîne avec. Est-ce qu'on parle de santé maintenant? Attendez. Bon, un des sujets que j'aurais voulu traiter ce matin, mais on n'aura pas le temps, c'était l'interdiction du portable au collège qui arrive là, en cette rentrée 2025. Donc, c'est notamment la une de la Croix, mais je suis sûr qu'on en reparlera demain. Je suis sûr que je vais trouver des papiers là-dessus. Mais il y avait trop de choses là. Je cherche le numéro 8. Ah oui! Alors, dans l'actu, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Voilà, par définition, les journalistes parlent de ce qui ne va pas. Souvent, longtemps, ça m'a saoulé. Puis un jour, je me suis dit, bon, en même temps, montrer ce qui ne va pas, c'est donner, c'est informer ceux qui sont en mesure de changer les choses, les décideurs ou les citoyens, ben, les clés pour faire évoluer ces choses qui ne vont pas. Donc finalement, ce métier de dire ce qui ne va pas dans notre pays, dans notre société, dans le monde, c'est plutôt OK. Parce que. Si tu dis juste ce qui va bien, ça veut dire que tu es partisan du statu quo. Et en fait, ça fait de toi un conservateur. Donc finalement, la démarche de dire ce qui ne va pas, voilà, c'est plutôt intéressant. Sauf que c'est très anxiogène. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les journaux, c'est une litanie de mauvaises nouvelles. Alors, moi, j'essaie de m'appliquer de temps en temps à trouver des bonnes nouvelles. Pas pour être en béni oui-oui, mais pour se dire aussi que parfois, il y a des choses intéressantes, justement parce que les choses évoluent. Par exemple, le don de sang. Le don de sang. Alors, je ne sais pas si je voulais. Je pense que j'ai pris une capture d'écran de l'article. Le don de sang, l'encadrement du don de sang, voilà, s'assouplit. Pour certaines populations, notamment les tatoués, population qu'on connaît bien ici. Les critères de sélection des donneurs de sang s'assouplissent. Donc là, c'est un papier dans la croix, c'est page 10 aujourd'hui. Lundi 1er septembre, les critères, donc c'est aujourd'hui, hein, pour donner son sang, s'assouplissent, mais il faudra notamment attendre 2 fois moins de temps après un tatouage, piercing ou une séance d'acupuncture. Quand vous faisiez tatouer, il y avait une très longue période, qui était, je crois, de 4 mois, qui va passer à 2 mois, on va vérifier ça, pendant lequel vous ne pouviez pas donner votre sang. Lola, par exemple, 21 ans, dit, cela me permettra de faire plus de dons. Elle n'aura plus à choisir entre ses envies de tatouage ou de piercing, manifestement qu'elle fait souvent, et son projet de donner son sang aussi souvent que possible, puisqu'on peut donner 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes jusqu'à un certain âge. À partir d'un certain âge, je crois que tu peux plus donner ton sang. Voilà. Jusqu'à présent, l'étudiante devait attendre 4 mois après chaque modification corporelle, tatouage, piercing, avant de donner son sang. Grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène dans les salons et les progrès en matière de dépistage, bon, moi je vais me faire tatouer en direct pour les 500 000 euros de Donation Goal au The Event avec le tatoueur slash ou la tatoueuse surprise que j'ai choisi. Évidemment, on s'est assuré qu'au The Event, on ait toutes les conditions sanitaires pour faire la chose proprement, quoi. Le délai d'ajournement de ce type est désormais réduit à 2 mois. Tu pourras donner ton sang 2 mois après un tatouage. Est-ce qu'il faut 18 ans pour donner son sang? Est-ce Je ne le sais pas, mais je suppose. On pourra aller vérifier si tu veux. On a aussi des. C'est-à-dire que tous les dons de sang en France sont testés. Hein. Et là, on a des nouveaux tests de dernière génération qui permettent de réduire la fenêtre aussi biologiquement silencieuse pendant laquelle les examens ne permettent pas de détecter une infection. Donc, il y a aussi du progrès sur les dépistages. En France, voilà, c'est ici. Les échantillons de sang sont systématiquement analysés pour éliminer pardon, les risques de contamination par certains micro-organismes transmissibles par le sang. VIH. Ah, Sugar me dit, on peut donner à partir de 18 ans jusqu'à 70. Merci pour l'info. Donc VIH, hépatite B, C, syphilis, HTLV. L'assouplissement concerne donc le tatouage, mais aussi les séances d'acupuncture. Ça, je savais pas. La sclérose de varices ou la mésothérapie. Et certaines interventions d'implantologie dentaire, des trucs un peu lourds au niveau de la bouche. Alors pourquoi ce changement? Aussi parce qu'on constate depuis plusieurs années, et là ça nous concerne tous, une baisse des dons. Merci Harry Seldom, merci Qatar, merci Draft, merci Marsu, merci Mister Mash, merci Gabi. En raison du vieillissement de la population de donneurs, c'est-à-dire que les jeunes donnent moins leur sang. On a compté en 2023 1,5 million de donneurs. En 2011, ils étaient 1,75 million. Il y a une grosse différence, quoi. Mais la tendance est plutôt positive dans la jeune génération, note Thierry Payard, notamment chez les 18-25 ans. Mais après, il faut fidéliser ces donneurs parce que les besoins sont constants. On a besoin de sang en cas d'accident, mais il y a des gens aussi qui, en raison de problèmes de santé, ont besoin de sang régulièrement, vous le savez. L'EFS, donc l'EFS c'est l'établissement français du sang, estime qu'il faut 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins médicaux de la population française. Ils permettent de soigner environ 1 million de personnes dans l'année. Ils sont d'autant plus nécessaires que les banques du sang anticipent de nouveau défis liés, entre autres, au changement climatique. En été, la collecte de produits sanguins est de plus en plus affectée par la circulation de virus comme le chikungunya, la dengue, ou le virus du Nil occidental. Certains me posent des questions sur mon programme présidentiel. Chaque chose dans son temps, on en parle, mais là, je parle d'autre chose. C'est fou, ça. Alors, je sais que c'est chiant, mais c'est pas un self-service ici. Hein. C'est-à-dire qu'on lit des articles dans un certain sens. Au moment où on lit l'article, c'est le moment de parler du sujet. Ici, du don de sang. La politique, on en a parlé tout à l'heure, c'était le moment de poser la question. T'es en retard, t'as le replay. Mais vous imaginez si à chaque fois quelqu'un vient me dire « Mais quel est ton positionnement politique, toi ?» Vous imaginez, c'est impossible. Si à chaque fois qu'on parle d'un sujet, tu as une question sur le Proche-Orient, une question sur Trump, une question sur la politique, une question sur mon positionnement, une question sur le The Event, une question sur Valorant, en fait, on n'y arrive pas. Donc un peu de rigueur, bande de jeunes gens. Voilà. Sinon, tu as le replay. Sinon, t'as le replay. Mais vous comprenez que je ne réponds pas à vos questions quand vous êtes à côté de l'info, quoi. Donc, l'été, tu as des virus qui circulent maintenant, comme le chikungunya, la dengue, le virus du Nil occidental, en raison de la présence de certains moustiques. Et il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas ça, quoi. Mais le réchauffement climatique n'est évidemment pas le principal obstacle aux dons de produits sanguins, parce qu'il y a le sang, mais il y a aussi les plaquettes et le plasma. Une fois écartées les contre-indications médicales, parce que certains ne peuvent pas donner, on n'est pas tous jeunes. Oui, mais vous êtes jeune dans votre tête. Si vous êtes là, c'est que vous êtes jeune dans votre tête. Hein, je ne vais pas vous flatter, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes jeune dans votre tête. Hein. Que vous ayez 20 ou 95 ans. N'est-ce pas grincheuse, joli pseudo. Les contre-indications médicales, les freins sont essentiellement psychologiques et sociaux. Si les personnes interrogées évoquent souvent en premier lieu pour expliquer qu'elles ne donnent pas leur sang le manque de temps ou la peur des piqûres, elles reconnaissent lors d'entretiens approfondis que les vraies raisons sont ailleurs. Même si le sang permet de sauver des vies, il est associé à des représentations liées à la maladie et à la mort. Une personne qui ne se sent pas bien dans sa vie aura moins tendance à donner, dit un sociologue. Mais c'est surtout une mauvaise image du don, façonnée par des incompréhensions et des informations inexactes propagées dans l'opinion publique qui risquent de faire fuir les donneurs. Ça paraît compliqué, alors qu'en fait c'est pas compliqué. Avec plein d'interdictions, il y en a, mais elles sont assez lisibles et claires. Voilà. Et finalement, on s'en détourne. Voilà. Et donc c'est là où l'EFS essaie de faire plus de pédagogie. Bon, ici, comme avec ces informations, par exemple, hein, si vous êtes tatoué, avant c'était 4 mois après un tatouage, et maintenant c'est 2 mois. Donc le cooldown a été réduit. Venom, bonne analyse. Il donne un repas gratuit si ça suffit pas à motiver. Oui, il y a un petit sandwich, oui. En général, il y a un petit sandwich, oui. Oui, t'as raison, Alexandra, on a oublié l'article sur l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école. Quelle heure il est? 53, j'ai le temps de le lire. Tu as raison, Alexandra, bien vu. Dans mon sommaire, j'ai oublié un article sur l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école française. Je vous lis. Hein. Dernier don de plaquettes, j'ai fait un malaise, me dit Furioko, ça arrive, mais de se faire moquer par une autre donneuse me traitant de chochotte, je n'y suis plus jamais retourné. Ok. L'autre donneuse, tu aurais dû. Tu aurais dû la. Le clou au sol, Furioko. T'es en train de donner ton plasma, tu fais un malaise, et une donneuse se fout de ta gueule? Mais tu aurais dû la déchirer surtout. Enfin, par les mots, on l'entend. Hein. Mais qui? Mais à qui? Mais à un moment, qui s'arroge le droit de faire un commentaire comme ça, quoi? C'est pas parce que tu donnes ton sang que subitement t'as le droit de dire n'importe quoi. Mais t'aurais dû la clouer sur place, quoi. T'aurais dû prendre tout le monde à témoin. Bon, tu devais être crevé, mais. T'aurais dû la pourrir, quoi. Sérieusement. Mais c'est honteux, quoi. Au moins un petit tacle, quoi. Franchement, te laisse pas faire. Quand les gens vous saoulent comme ça au quotidien, vous savez, hein, je sais pas, dans les petits trucs du quotidien comme ça, un truc, ou une petite balayette, mais une balayette verbale. Quand les gens vous saoulent comme ça au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours et tout, et que franchement, on vous impose quelque chose qui est injuste, là, ne ruminez pas le truc, ne ruminez pas le truc. Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire, vous savez, le truc qui va vous faire une boule dans le ventre pendant longtemps, là, en mode, ah putain, c'était vraiment injuste ce que j'ai vécu, et puis j'ai. Je n'ai pas su quoi dire, j'ai rien. Mais franchement, faut que ça sorte tout de suite. Les gens n'ont pas le droit de vous maltraiter, quoi. Voilà. Ça vous fera du bien en plus, vous n'allez pas porter ça. Vous allez, sur le coup, vous allez un peu hausser la voix, vous allez un petit peu. Voilà, vous allez vous dire, ah oui, mais là, peut-être que j'aurais dû. Pourquoi j'ai crié Oui, mais non, l'autre auteur de l'agression, c'est une agression ce que tu as vécu. Hein. Auteur de l'agression va repartir l'esprit tranquille et toi tu vas te promener avec ça, quoi. Non, tu marques le coup, tu lui dis le fond de ta pensée. Tu n'es pas obligé d'ailleurs de partir dans les tours, mais tu lui dis le fond de ta pensée. Déjà tu vas te délivrer de ce poids et puis tu as le droit de le faire. Ça c'est un truc qui est dur à faire, mais alors, il ne s'agit pas de partir en guerre non-stop contre tout le monde, hein. Mais à un moment, il faut savoir se faire respecter, quoi. Sans forcément monter dans la violence. Mais d'abord parce que vous avez le droit de le faire, et ensuite parce que à ne pas le faire, vous vous faites du mal. Parce que vous portez ça après, pendant la journée, voire plus longtemps. La personne, par exemple, hein, ne donne plus son sang parce qu'elle a vécu ça. Vous voyez bien ? les conséquences, elles sont importantes en fait. Hein. Donc ne le faites pas n'importe comment, mais si on vous parle mal, si on vous traite mal, ne vous laissez pas faire. Tu vois, Kara me dit souvent, je reste stoïque quand je suis agressé, tellement je suis choqué, je sais. Mais il faut apprendre en fait un moment à se défendre, quoi. Pourquoi il a piqué ses lunettes à Elia? Parce que je suis le grand-père d'Elia. Et qu'on va chez le même opticien. C'est en direct d'une radio? Non, Gisèle. Bienvenue, Gisèle. Alors, en fait, c'est une revue de presse que je fais tous les matins sur Twitch, mais que je diffuse aussi sur TikTok depuis quelques temps. Il y a aussi un effet de stun et la réponse vient après coup. Oui, Sugar, tu as raison. Mais c'est là où je conseille, moi, la pratique des jeux vidéo. Voilà. Parce que quand même, en termes de réactivité, de réflexe, même si ça se voit pas tellement sur mon gameplay, eh ben, tu progresses. J'ai des joueurs à question pour un champion que je jouais dans les dernières sessions d'enregistrement, là, notamment des jeunes qui ont des taux de réaction au buzzer en première manche, mais surréaliste, c'est-à-dire incroyable. Et dans ces joueurs très rapides, j'ai beaucoup de joueurs de jeux vidéo. Donc, moi, je dis, si vous êtes un peu stun comme ça quand on vous agresse, jouez aux jeux vidéo, ça peut, un petit FPS de temps en temps, ça peut vous aider à... Moi, je suis... très réactif quand on m'agresse comme ça. Est-ce qu'ils t'ont bien répondu? Souvent d'ailleurs la réponse de la personne en face, la personne agresseuse à l'origine, elle n'est pas terrible, hein, elle est, voire même, tu vois, enfin, ça fait, mais au moins c'est sorti. Vous n'avez peut-être pas réglé le problème, mais au moins vous n'avez pas, vous ne l'emportez pas avec vous. Voilà. Vous avez dit les choses. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est presque un conseil de santé mentale que je vous donne. Bon, pardon, j'accélère parce que Alexandre a raison. Il y a un sujet très important dont je vais vous parler, qui est l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, puisque c'est la rentrée scolaire. Et en fait, voilà. Je vous le résumais tout à l'heure. Il y a des progrès par rapport à avant. Il y a des progrès par rapport à il y a quelques années dans l'inclusion des enfants handicapés en situation de handicap à l'école. Voilà. Des progrès, mais on est très loin du compte. Donc c'est mieux, mais c'est encore très loin de ce qu'il faudrait faire. Salut Tégolek. Merci Lolef, merci Clumette, merci Picklewick, merci Harry Seldom, pardon, oui, Harry Seldom. Merci Lulu du Sud, merci Yann, merci Magda. Malgré des progrès dans l'accueil des enfants handicapés, c'est un article du Monde. Des zones d'ombre demeurent selon des enquêtes du Monde associatif. Voilà, ça c'est un sujet important. Je pense qu'on peut, l'une des manières dont on peut mesurer le degré de civilisation d'une société, c'est la manière dont elle s'occupe des plus fragiles. L'une des manières, ça n'est pas la seule, mais l'une des manières de mesurer le degré de civilisation, de développement d'une société, c'est la manière dont elle prend en charge, dont elle s'occupe, dont elle se soucie des plus fragiles, notamment les personnes en situation de handicap. C'est pour ça que c'est un sujet qui est essentiel. Younous, par exemple, 4 ans, il a un trouble du spectre autistique. Il va à l'école que les mardis après-midi, les jeudis et les vendredis matins. Liam, 12 ans, polyhandicap, il est scolarisé 15 minutes par semaine. 15 minutes par semaine dans son institut d'éducation motrice. Imran, 10 ans, la veille de la rentrée, il apprend qu'il ne pourra pas aller à l'école. Il n'y a pas d'AESH. D'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Anaïs, 15 ans, qui a des troubles du fonctionnement cognitif, qui avait de bonnes notes, de bonnes appréciations dans son ULIS. L'ULIS, c'est très bien ça. C'est l'unité localisée d'inclusion scolaire. J'en ai parlé avec des enseignants à question pour un champion qui enseigne en ULIS. Voilà. Donc elle avait de très bonnes notes en collège, mais elle n'a pas trouvé de solution pour poursuivre dans un cursus préparant un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. Au total, un millier de parents démunis, résignés ou en colère ont témoigné depuis juillet sur les difficultés de scolarité sur une plateforme qui a été mise en place par l'UNAPEI, qui est l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et leurs amis. Donc là, c'est les chiffres qui sont publiés par cette étude. Voilà. Sur 3603 enfants d'âge scolaire, 13%, donc en situation de handicap, vous l'avez compris, 13% n'avaient aucune heure de cours par semaine. En 2024-2025. Aucune. 13%. Et 38% moins de 6 heures par semaine en 2024-2025. 27% des enfants accueillis à l'école ordinaire avec l'accompagnement d'une AESH sont dans cette situation par défaut en attente d'un dispositif adapté. Donc, alors c'était pire avant, hein, c'était pire il y a quelques années. Donc ça progresse, mais il y a encore beaucoup à faire. Tout ça, c'est une histoire de budget et de moyens. La politique, c'est ça finalement, c'est où on va chercher l'argent et qu'est-ce qu'on fait avec. Alors justement, le monde revient sur ce qu'il y avait avant. J'en mets un petit coussin parce qu'à mon âge, si on n'est pas bien assis, on se bloque le dos. La loi rappelle ce qu'il y avait avant. La loi sur le handicap de 2005 garantit à chaque enfant le droit d'être scolarisé dans l'établissement de leur secteur. Ça, c'est le droit. L'éducation nationale a déployé du coup d'importants moyens pour rendre l'école inclusive. En cette rentrée, l'éducation nationale accueille 520 600 enfants en situation de handicap, ce qui est beaucoup plus qu'avant, hein. 4,8% de plus qu'en 2024, 50% de plus qu'en 2018. Donc ne me faites pas dire que tout se passe bien, mais en revanche, c'était vraiment pire avant. Les deux tiers sont aidés par un AESH, qui est souvent mutualisé, qui se partage entre plusieurs élèves. Voilà. Il y a aussi 125 000 élèves en ULIS, hein, ces établissements, enfin ces cursus qui combinent des modules d'enseignement adaptés et des heures en classe ordinaire. Ça, c'est bien, ça. D'après des enseignants avec qui j'en ai parlé, c'est vraiment sympa. Voilà. À cela s'ajoutent 622 dispositifs consacrés aux troubles du neurodéveloppement. Enfin, des pôles d'appui à la scolarité, créés en 2024 pour répondre rapidement aux besoins des élèves et des enseignants. Ça aussi, il y a des nouveaux moyens là-dessus. Mais donc, statistiques en progrès. Ah, je confirme, Ulysse, c'est génial, me dit Vraël. Ah, Manu dit dispositif Ulysse, c'est pas top. Bon, débat intéressant. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit qu'en vrai, c'était plutôt cool. Par rapport à avant, toujours. Mais ces statistiques en progrès masquent des situations toujours plus difficiles pour les familles. Faute d'accompagnant élève disponible, Lorenzo, par exemple, 8 ans, atteint d'autisme sévère, n'a fréquenté l'école qu'une demi-heure par semaine en 2024-2025. Et pourtant, c'était mieux encore que l'année d'avant où il avait école qu'une fois par mois, dit sa maman. Voilà. Elle espère justement une place en ULIS, spécifique aux troubles de l'autisme. Très intéressant ce sujet. Merci Alexandra de m'avoir rappelé que j'avais zappé ce papier. Tout est toujours beau sur le papier, mais dans la réalité, c'est une catastrophe, dit Manu. Alors moi, j'entends bien que certains qui connaissent bien cette situation parce qu'ils sont concernés, eux-mêmes ou la famille, les enfants, et que si ça se passe pas bien, comme plein d'exemples que je suis en train d'évoquer là, quand on vous dit ça progresse, il y a des moyens qui ont été mis par rapport à il y a 15 ans, il y a 20 ans. Moi, je comprends que ce discours, il est intolérable pour vous. Parce que vous êtes peut-être dans la situation où il n'y a pas de place pour l'enfant, où il y a une demi-heure par semaine. Et vous avez raison de dire que c'est intolérable. Mais là, le papier ne dit pas que tout se passe bien. Le papier dit que ça a été encore pire avant. Mais il ne dit pas que c'est bien. Hein. Mais je comprends que c'est intolérable à entendre. Hein. Je comprends, Manu. C'est pas mon point de vue, Manu. C'est juste un point de vue, tu vois, où on prend du recul. Mais je comprends, hein. Moi, je réagirais comme toi si j'étais dans cette situation-là. Alors, il y a une bataille de chiffres justement entre l'éducation nationale. Eux, ils donnent d'autres chiffres. Ils assurent que 92% des élèves en situation de handicap fréquentent l'école à temps plein dans le premier degré, 97,5% dans le second degré. Bon, les assos disent, ils sont pas d'accord. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, dit l'UNAPEI, la SOS, là, qui n'apparaissent pas dans les statistiques parce qu'ils n'ont pas un INE, identifiant national d'élèves. Voilà. Donc ils sont pas les enfants invisibles, dit Le Monde. Il y a un angle mort statistique. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul. On parlerait de peut-être 200 000 enfants, hein, non recensés. 150 000, 200 000, vous voyez? Ça expliquerait les différences de chiffres. Voilà. Donc, pour résumer, voilà. La France fait mieux qu'elle n'a fait, mais elle ne fait pas encore assez, bien sûr. Et encore une fois, je pense que une civilisation se mesure notamment à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Voilà. Et si on fait un programme ensemble pour 2027, on construira un volet là-dessus. Il faudra trouver les sous, mais on construira. Merci Mathias. On construira un truc là-dessus. Force Alexandra. Bon, je surveille le temps ce matin. Désolé, en général, on prend le temps, mais là, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et à 12h30, je vais manger avec mon aîné qui rentre en CM1. Malo, je fais un petit déjeuner avec lui et avec sa maman pour lui faire un petit moment tous les trois. Après, je vais vous parler de santé. On a parlé du don du sang qui s'assouplissait. Il y a un autre truc de santé. Alors, encore une plutôt bonne nouvelle. Alors, plutôt bonne nouvelle parce que là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais moi, je suis très sensible à la qualité de l'air. J'ai des petits problèmes respiratoires qui sont clairement liés à la pollution atmosphérique de la ville dans laquelle je vis, hein, à Paris. Bon, j'ai vu des problèmes pulmonaires qui ne sont pas gravissimes, mais qui sont apparus à Paris, clairement liés à l'air, qui est un air très mauvais qu'on respire. Et on a un article ce matin qui nous dit que là encore, il y a beaucoup à faire, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. C'est dans le monde. C'est ici. Ah. Salut Alonso. La qualité de l'air à Paris en nette amélioration depuis 10 ans. Bon. Tu m'as fait penser à prendre rendez-vous pour donner mon sang. Ah, je suis content, Alain. L'organisme Air Paris souligne l'impact conséquent et quantifiable des politiques publiques sur la lutte contre la pollution à Paris et appelle à poursuivre les efforts. On respire de mieux en mieux à Paris, bon, je veux bien croire, hein. Le constat dressé par Air Paris, qui est l'organisme indépendant de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, dans deux rapports rendus publics mercredi dernier, est sans appel, la qualité de l'air dans la capitale s'est encore améliorée en 2024 dans la continuité d'un mouvement engagé depuis au moins 20 ans. Ok. Sur les 10 dernières années notamment, les concentrations moyennes de dioxyde d'azote, gaz nocif pour le système respiratoire principalement émis par les véhicules thermiques, bon, les voitures, les autobus, les motos, ont baissé de 45%. C'est énorme. Les particules fines, également produites par les voitures, mais aussi par le chauffage au bois, qui est une catastrophe le chauffage dans les cheminées, là, ont baissé de 35% également sur 10 ans. Conséquence, en 2024, les concentrations menées pour ces deux types de polluants sont restées en dessous des valeurs réglementaires, mis à part quelques dépassements ponctuels. Si les évolutions vont dans la bonne direction, Air Paris prévient toutefois que l'air parisien, ah merci, quand même, est encore très loin des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'OMS. Et qu'en l'état actuel, 70% des habitants respirent un air qui sera au-dessus des valeurs limites réglementaires à respecter en 2030. Donc, des progrès, mais c'est magnifique le chauffage cheminée, ouais c'est magnifique, mais ça te nique les poumons et ceux de tes voisins aussi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la qualité de l'air. Alors ça, hein, les romantiques là qui aiment bien se passer des petites soirées au coin du feu, alors ouais, c'est mignon, c'est tout chou, mais c'est une catastrophe pour les poumons, quoi. Voilà. Donc, des progrès, mais peut mieux faire. Ah. Donc, il y a eu des efforts aux origines multifactorielles, dit Le Monde. Voilà, alors, pour le dioxyde d'azote, l'amélioration est venue aux évolutions du trafic routier à Paris, et surtout la modernisation du parc de véhicules, le développement d'électrique, le renouvellement de moteurs thermiques. Moi, il y a un truc que j'ai noté à Paris, c'est que globalement, le bruit ambiant venant de la circulation à Paris avait quand même beaucoup baissé avec les voitures électriques et hybrides. Moi qui suis très sensible au bruit, Paris c'est une ville très bruyante, c'est fou comment en 10 ans, globalement, je trouve que c'est la rue est beaucoup moins agressive, quoi. Donc, ce qui a été accéléré par les politiques de restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants, Air Paris. La réduction du trafic routier compte également pour 25% de la baisse du dioxyde d'azote grâce au développement des transports en commun, du vélo. On n'a jamais vu autant de vélos à Paris. Hein. Les restrictions de circulation, la politique de stationnement, le télétravail. 20% restant attribuables au secteur d'activité non routier, logement, énergie, BTP, transport ferroviaire. Quant aux particules fines, ça c'est une catastrophe aussi, hein. Leur teneur, Paris c'est pas la France. Très belle remarque de géographie de Pix. Merci beaucoup. Toi, je pense que tu es prêt pour question pour un champion. Quant aux particules fines, leur teneur a reculé principalement par la réduction des émissions du secteur résidentiel, premier contributeur majoritairement grâce aux actions ayant permis de diminuer les émissions liées au chauffage, isolation des logements, renouvellement des chaudières et équipements de chauffage. Conclusion, bon, on pense qu'on veut des politiques qui sont succédées à Paris depuis 20 ans, mais l'amélioration de la qualité de l'air à Paris ces dernières années confirme que les politiques publiques menées à différents niveaux ont un impact conséquent et quantifiable sur les concentrations de polluants respirés à Paris. Bon, quand je dis les élus locaux à Paris, vous avez vu que pour les automobiles, c'est aussi de la politique nationale. Mais Mix ou Pix, je ne sais plus, avait raison. Pix. Là, c'est une étude qui s'intéresse à Paris. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un papier sur les grandes villes en France, qui sont aussi touchées par la pollution, la circulation, les émissions industrielles. Enfin, quelque chose de plus général. Tu as raison, en vrai. Bon, là, on a un papier sur Paris. Mais alors, Pix, il est fâché, parce qu'il est fâché, ou elle d'ailleurs, va te baigner dans la Seine. Baigner ER, par contre. Donc voilà. Mauvaise nouvelle, on respire un air, c'est de la merde. Bonne nouvelle, ça s'améliore. C'est le vrai Samuel ou c'est une rediff Dari, c'est le vrai Samuel, d'ailleurs je te salue. J'habite à Paris, ouais, j'habite à Paris même. Ouais. J'avais pas la touche pour diffuse, non, j'avais oublié de binder cette touche. On avait installé le setup trop vite. Non, la fausse, c'est juste qu'ils sont pas habitués encore. Mais ce soir. Sur Twitch, soirée spéciale Valo, ce soir sur Twitch, avec le maillot de l'équipe de France, et ça va mettre des têtes. Et là, ici, j'ai ma touche est bindée, donc ça va diffuse et tout. Merci Craftar, j'avais pas vu ton message, merci pour le 4e mois et pour ton message. Merci Nicodème, merci à la télévision. Mais j'ai pu jouer avec ma petite fille, ouais. Le zizou de Valo, vous êtes trop gentil. Attends, Craftar. Si, je viens de lire ton message, Craftar. Le pire, c'est que maintenant, j'ai une page, je sais pas quoi, j'ai une page qui certifie que j'ai joué sur la scène VCT Valorant, une page VLR, voilà. Et je suis devenu hier le joueur le plus âgé qui a joué sur une scène VCT. Le record précédent était 35 ans et je viens de l'exploser. Voilà. Alors évidemment, c'est un show match, mais voilà, je suis le joueur le plus âgé qui a joué sur la scène VCT. Et j'ai mis des têtes à des radiants. Et j'ai mis des têtes à 5 radians. Voilà, c'est tout. C'est tout. On en parlera ce soir. Vous êtes gentils. On s'est bien marré en vrai. C'est un show autodidacte, c'est un show SM7B. Mais on en parlera ce soir, on va bien rigoler. Puis après, il y a le The Event qui arrive là. Pop, pop, pop. La fin de semaine, elle va être incroyable. La fin de semaine, elle va être folle. Le The Event, soyez sur mon stream. Alors, ce sera sur Twitch. Hein. Les 5, 6, 7, là, on va tout casser. Ça va être gigantesque. Alors, on parle beaucoup de santé ce matin et de bonnes nouvelles, j'accélère. Je suis pas très télé, moi, je la regarde pas beaucoup par manque de temps, mais même si je suis beaucoup sur les nouvelles plateformes, je pense qu'il faut pas oublier non plus les médias traditionnels. La preuve, je vous lis les journaux papier. Mais à la télé aussi, il y a quand même des choses qui sont parfois les masterclass, et notamment là, j'ai deux émissions qui parlent de santé, qui parlent notamment d'un documentaire de l'endométriose. Alors, évidemment, je suis pas un spécialiste du sujet, mais je sais que ce sujet a été sous-exposé, hein, qui touche très nombreuses femmes depuis des années. On en parle de plus en plus, et c'est tant mieux, et on a un documentaire que j'ai envie de recommander à tout le monde, les hommes comme les femmes, les hommes notamment pour qu'ils soient un peu mis au courant de cette histoire, puisque c'est un documentaire qui ne dit pas tout, mais qui semble ok, c'est La Croix qui en parle, page 18, donc c'est un documentaire qui est disponible, en plus vous n'avez même pas à attendre la diffusion, parce que c'est sur arte.tv, sur la plateforme d'Arte. Endométriose, c'est le doc vers de nouvelles thérapies. Il y a de l'espoir en la matière, si certains en souffrent, certaines. Des douleurs transperçantes, longtemps ignorées, trop souvent minimisées, qui touchent pourtant une femme sur 10, 200 millions dans le monde. Vous connaissez tous, toutes, des amis, des membres de votre famille, des sœurs, des mamans, des fiancées, des épouses qui souffrent de ça. Le documentaire d'Ursula Duplantier sur arte.tv revient sur cette maladie qui était encore un mystère complet il y a quelques années, endométriose. Sans être révolutionnaire, le film Endométriose vers des nouvelles thérapies, très pédagogique, a le mérite, force à toutes celles qui en souffrent. D'ailleurs, je vois que vous m'en parlez dans le chat. Ouais, c'est fou quand même. Karine, merci d'en parler. Malade depuis mes 13 ans, j'en ai 53. J'ai vécu ma douleur seule. Ce commentaire, il est fou, quoi. C'est fou. Vince a raison. Ma compagne est atteinte par l'endométriose. Les souffrances peuvent être très violentes. Si ça touchait les mecs, ce serait réglé depuis longtemps. Merci, Aztec. Donc, sans être révolutionnaire, ce film très pédagogique a le mérite de remettre en lumière cette pathologie au concours toujours flou aujourd'hui, hein, et l'errance médicale qu'elle engendre. Hein. Encore aujourd'hui, il faut aux patientes 7 à 10 ans pour obtenir un diagnostic précis. Une longue épreuve pour ces femmes et un retard flagrant à rattraper pour la médecine. Le documentaire explore ainsi les dernières innovations scientifiques sur le sujet, car si l'endométriose aujourd'hui ne se guérit pas, c'est fou, hein, il est possible d'en atténuer les effets, voire de prévenir la chronicisation, le fait de rendre chronique, les douleurs. Parmi les dernières avancées, vous avez un test salivaire pour faciliter le diagnostic, éviter les procédures invasives. Des pistes thérapeutiques sont également en développement, dont un traitement des liaisons par ultrason focalisé, technologie encore balbutiante mais porteuse d'espoir qui pourrait limiter le recours à de lourdes chirurgies. Ah, Melissa a vu le doc et me dit, il est top le docu très proche de la réalité qu'on peut vivre. Asiaki me dit, oui, tu vas chez le médecin, il te donne du space-fond et bye, quoi. Pas encore remboursé le test, je crois. Me dit quelqu'un dans le chat. En alternant les analyses de scientifiques et les portraits de femmes qu'elle accompagne jusqu'au bloc opératoire, la réalisatrice aborde également les conséquences intimes mais sociales de cette maladie. Évidemment, ça n'est pas sans conséquence. On regrette cependant qu'elle ne fasse qu'ouvrir cette porte sans vraiment démontrer qu'une maladie mal prise en charge est un enjeu pour toute la société et à prendre le corps. 2027, on prendra des mesures là-dessus aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas un trailer là-dessus, moi? Bande-annonce. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bande annonce. Comment s'appelle le doc? Endométriose. Thérapie. Quelle heure il est? Oh putain, merde. Ouais, faut que je parte dans 5 minutes. Là, ici, vous avez le doc, là. Donc, il se trouve vraiment... Ça, c'est une pub, ça. Là, on a le doc. Vous avez accès au doc en 2 clics, hein, en vrai. Hein. À cause de cette maladie, ma soeur n'a pas pu avoir d'enfant. Voilà. Alors, certains demandent, c'est quoi l'endométriose? Et Raph répond, pour ceux qui demandent, c'est une formation d'une muqueuse extra-utérine inflammable, très douloureuse. Ah, c'est le doc. Là, il n'y a pas de bande-annonce. Il fait 52 minutes, le doc. Voilà. Bon, en vrai, ça, regardez, les amis. C'est sur Arte, vous les trouvez en 2 clics, hein, ok? Ouais. Merci pour les commentaires sur Valo hier. Mais on aura l'occasion d'en reparler ce soir sur Twitch. Stream Valo. Bon, j'accélère. Faut que je laisse dans 5 minutes pour déjeuner avec mon petit. Et je vous signale un dernier truc à la télé. Comme quoi, à la télé, il y a encore des trucs sympas. Même si on veut parfois limiter les trucs vraiment sympas. Il y a une émission exceptionnelle de Culture Générale. C'est pas une question pour un champion qui ne sera pas diffusée aujourd'hui pour la première fois depuis 1988, depuis 37 ans. Ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, mais ça aussi, je vous en reparlerai. Le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ça, c'est page... Ah oui, c'est dans l'Humanité, c'est sur une série télé sur la santé mentale, et ça a l'air exceptionnel. Voilà. Entre humour et gravité, l'humain a eu un coup de cœur pour cette série télé, une folle série sur la santé mentale. En 10 épisodes, c'est une fiction canadienne dans laquelle tu as notamment Thomas Njijol, qui s'appelle Empathie, qui évoque les troubles psychiques et parle de reconstruction avec une humanité, une poésie confondante, une immense réussite. T'as trop... Vince, j'ai beaucoup plus d'expérience que ce fameux directeur en matière de télé. Il a commencé ce poste il n'y a pas très très longtemps et un jour je lui expliquerai ça. Je lui expliquerai que... D'ailleurs, je vais le voir dans pas longtemps et je vais lui dire que moi, je peux prendre son poste quand je veux, mais que lui ne peut pas me remplacer. Voilà. Mais comme je ne tacle pas gratuitement, moi, je lui dirai en face. Donc, pardon. Donc, Lumac a eu un vrai coup de cœur là-dessus. Voilà. Et c'est une série avec notamment une dame qui s'appelle Florence, qui a 39 ans, qui devient psychiatre dans un institut québécois. Voilà. Non, mais je lui expliquerai. Mais je lui dirai, je le vois dans 2 jours. Mais moi, je dis les choses en face, par contre. Voilà. Il fait ce métier depuis 10 ans. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la télé. Donc, je vais lui expliquer ça déjà. Mais je vais lui dire en face, par contre. Et donc, voilà, on a cette Florence là, cette psychiatre, voilà, qui a l'air pas très bien dans sa vie à elle déjà. Mais quand elle passe la porte de l'hôpital, elle retrouve tout son calme, son autorité, son sang-froid, alors qu'elle semble rongée par un chagrin infini. Voilà. L'hôpital lui adjoint un adjoint de sécurité qui s'appelle Mortimer, qui est Thomas Ngijol, français lui, et qui va devenir son aide, mais aussi son ami. Faut que je boive de l'eau, ça pique. Et les deux là, j'ai l'impression qu'ils vont faire des choses incroyables. Ils vont aider un patient pyromane à se sevrer de ses médicaments, à retrouver sa conscience et ses souvenirs. Ils vont accompagner un autre patient paranoïaque pour qu'il accepte de sortir de sa chambre. Il va évaluer Charles, comptable trouble et qui a détourné des centaines de milliers de dollars. Entre détresse et fou rire, entre poésie et chagrin, Empathie propose un regard politique au fond sur l'exercice de la psychiatrie. Car il ne s'agit pas. La série a l'air d'être une masterclass. Il ne s'agit pas d'une série médicale à proprement parler. Les 10 épisodes écrits par l'interprète de Suzanne, Florence Lomprey, sont axés avec ce soin particulier qu'on appelle l'écoute bienveillante. Qu'importe les crimes dont sont accusés l'un ou l'autre des patients, ils appartiennent à la même humanité que la nôtre. Et l'idée n'est pas d'effacer leurs actes, c'est sur Canal+, Camille, mais de comprendre, de contenir, d'accompagner ces personnes pour retrouver justement cette humanité commune. Merci Nicodème, merci à la télévision, merci Sozo, merci Aztec. Cette phrase, elle est incroyable. Je vous la relis. L'idée n'est pas d'effacer leurs actes, les éventuels crimes de ces personnes, mais de comprendre, contenir, accompagner ces personnes pour retrouver justement cette humanité commune. La série va plus loin. Qu'est-ce qui différencie au fond Suzanne et Mortimer de leurs patients? L'un et l'autre ont vécu des traumatismes épouvantables dans leur enfance, des épreuves terribles à l'âge adulte. Merci Tracimo, il continue sa propagande gauchiste sur TikTok. Merci Tracimo, c'est grâce à toi justement qu'on peut dénoncer ce genre de contenu. Dites-nous quel est le créateur de contenu dont tu parles, qui est en train de continuer sa propagande gauchiste sur TikTok, c'est qui? Donne-nous son nom, que nous le châtions, que nous le prenions à témoin. Merci Tracimo de ce travail de salut public. Heureusement que tu es là. Dis-nous quel est ce gauchiste dont tu parles, que tu dénonces. Nous joignerons nos voix à la tienne. Dis-nous. On attend la réponse de Tracimo, bien sûr. Cœur sur toi, mon chouchou. Et donc, c'est incroyable, ça. Donc, voilà. Malgré la dépression, l'alcoolisme, parfois, il demeure intègre et intégré. Au fil de la série, des flashbacks permettent de comprendre pourquoi Suzanne, donc la médecin, est si triste, comment elle a été adoptée par sa famille, pourquoi de criminologue pour la police, elle est devenue psy. Voilà. Empathie parle de psychiatrie, mais n'a rien à voir avec la série En thérapie. On est là dans une autre dimension, moins sociétale, plus singulière et personnelle, qui dit cependant que ce qui est brisé dans l'enfance a des conséquences sur toute une vie. Cette phrase, elle est essentielle. Ce qui est brisé dans l'enfance a des conséquences sur toute une vie. Et que l'amitié, le soutien, c'est mon réveil, le soutien des siens, un regard bienveillant et l'art peuvent changer la donne. Ça donne envie, non? À total rebours d'une vision étriquée de la folie où il suffirait de médicamenter et d'enfermer, cette série serait relève aussi poétique que politique. Bon, c'est sur Canal+, comme quoi à la télé, il y a encore des trucs. Même si parfois ils enlèvent des trucs bien. Merci les amis! C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, c'est une petite revue de presse, hein. 2h23, d'habitude on fait plutôt 3h, 3h30. Hein. Mais là, en fait, comme je suis revenu de Berlin, j'ai beau me dépêcher, je suis revenu de Berlin ce matin, j'ai lancé un petit peu avant 10h. Et puis là, je vais déjeuner avec la famille, quoi. Donc merci pour cette revue de presse. Je trouve qu'en 2h30, en vrai, on a évoqué pas mal de choses. Amis TikTok, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir. L'idée, c'est que la revue de presse, c'est tous les matins sur Twitch et TikTok. Donc rendez-vous demain vers 9h, 9h30. En gros, c'est par là, quoi. Hein? Et en revanche, le gaming, c'est plutôt sur Twitch. Donc ce soir, la soirée spéciale Valo, n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est gratuit. T'as même pas besoin de télécharger quoi que ce soit, tu vas sur ma chaîne Twitch, let's go quoi. À partir de 20h, 20h30, je dirais. Mais tous les matins, vous aurez ce rendez-vous. Voilà. Amis TikTok, je vous dis au revoir. On va dire au revoir aussi aux amis de Twitch, mais Twitch, on fera un raid qu'on ne peut pas faire sur TikTok. Merci Manu. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, des autres. Soyez heureux. Belle rentrée à ceux qui rentrent, amis TikTok. Et je vous dis à très vite. Je cut et je vous dis à demain matin. Amis Twitch, nous sommes entre nous. Pour faire un raid. Voilà. Comme vous êtes super nombreux, on va aller voir qui est en live. On va faire un raid. J'ai vu que tonton n'était pas en live ce matin. L'ami tonton qui live tous les matins, je crois qu'il est en Corée. Je crois qu'il est en Corée. Donc ça c'est cool. C'est très. Moi j'ai Tonton pas en live le matin, ça m'a surpris. Qui est en live? Il y a la Michou Hachin, il y a Rive, il y a Chap, il y a The Guild, il y a Nini, il y a Ken, il y a Lège sur Civilization bien sûr. T'as Monody, t'as Jardi Stream, les amis de Jardi Stream. T'as ici Japon Corp, Marie Kigai, il y a Broco sur Valo. Il y a du monde. Ça, c'est quoi ça?
Je sais pas.
Marrant ça. Bah, écoutez, on aime aussi soutenir les petites chaînes. Petite chaîne, ça veut rien dire. Petite chaîne, c'est une chaîne qui peut avoir un contenu de fou, mais qui n'a pas encore moult viewers. Et je vois par exemple là une chaîne que j'ai déjà raid, de F. Bardino, sa cuisine et le titre donne envie. Je vois une cuisine, je vois de la bouffe, je vois des carottes, des champignons, des oignons, je vois un mec sympathique, un beau gosse. Une chevelure que j'ai eue mais que je n'ai plus. Voilà. Et le titre, c'est On prépare le The Event et le déjeuner. Et mettez-moi ça. Regardez-moi le beau gosse. Hein? Eh ben on va voir ça. Il a l'air sympa. Je l'ai déjà arrêté de toute façon si je le follow. C'est parti. F. Bardino. Cuisine, les amis. Cuisine et The Event. F. C'est quoi? C'est underscore? Bardino. Je l'ai trouvé. 8 viewers. 8 viewers sur un stream de cette qualité? Non. Allez, on donne de la force. On se retrouve ce soir. Soirée Valo. Ça m'a reboosté à mort sur Valo là, le week-end à Berlin. On aura le maillot de l'équipe de France. On va rigoler. On va parler de Spike. On va parler de Defuse. On va parler de tout ça. 20h, 20h30. Voilà, je serai heureux de vous retrouver ce soir. Merci pour ce matin. C'était un plaisir. À ce soir. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. On va voir la cuisine. Merci à Hello Bank qui soutient la chaîne tout le mois de septembre. Trop bien ça. C'est en train de charger. Voilà, ça part dans 5 secondes. À ce soir les amis et merci encore. Ciao ciao.
Et c'est pas grâce à moi, 10 millions, c'est plutôt grâce aux gens. Peut-être que cette année, on va récolter 10 millions, 001. Salut, Drigger. Drigger 33. J'ai jamais regardé, je ne saurais. Oh!